Take you into the light. I just wanna hold you to my embrace. I just wanna hold you to my embrace. I know your heart is dark inside, but I am not afraid of the night you run. You hide before you climb, but I am not afraid of a fight. Whoa. You want a big gun, a big chair, you want power. But I'm gonna hunt you down like a lion. I am coming, I won't stop until you're mine. I just wanna hold you to my embrace. I just wanna hold you to my fame and acclaim will expire. When it falls, you call a holder. Then I'll set your light on.
I know your heart is dark inside, but I am not afraid of the night. You run, you hide, you fall and you climb, but I am not afraid of a fight. Whoa, c'est à moi là. Super labour, en train de faire un autre truc. Comment ça va? J'étais en train de regarder le profil d'un gamer slash streamer que quelqu'un me recommandait en message. Oh, pourquoi t'es allumé toi?
Qu'est-ce que tu racontes toi? Ok.
Pour mes émissions de gaming que je suis en train de préparer. Tiens, j'ai besoin de vous d'ailleurs, je vais vous faire bosser un petit peu. Vous allez bien d'abord? Voilà, commençons par le plus important. Qu'est-ce qu'il y a dans les gros titres aujourd'hui? Très bonne question de Dirty, on va l'évoquer dans un instant. Je remercie Camille Notagirl, c'est un chiffre qui m'impressionne, qui vient de sub pour un 22e mois d'abonnement, 22e mois consécutif. On est au maximum là. Je trouve ça un peu foufou que certains d'entre vous sub depuis 22 mois de façon ininterrompue quoi. Merci beaucoup Camille, merci Brekbrrr. J'adore lire ton pseudo, je n'arrive pas à prononcer jamais. Merci beaucoup pour le 12e mois. Julo 18, merci pour l'énorme 21e mois d'abonnement. Pandanirio, merci pour le 14e mois. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Puis après, je vais vous demander de m'aider un petit peu sur des petits trucs là, sur la programmation, qui vous aimeriez voir sur cette chaîne. Salut, salut. Ah, la Condamine 46 écrit, c'est dingue, j'écoutais le replay d'hier, le live est venu le remplacer. Ah oui, du coup, quand on écoute le replay sur la chaîne, s'il y a live, ça passe devant, ok. Et pas sur YouTube, bien sûr. J'écouterai le replay cet après-midi en courant, je ne me lasse pas d'écouter Samuel le Bienveillant. Réputation, ça, très surfait. Qui se lâche parfois dans les gros mots, ça c'est vrai. On fait ça ici. But le chat, merci pour le cinquième mois d'abonnement. Bonjour, j'aime bien le bonjour de bande de petits filous de Clamakine, là. Il est sympa ce bonjour de petits filous. Ouais. Ouais, c'est Alexandre a raison. Parfois, le matin sur France Info, je laisse traîner ma tasse de café qui n'est jamais loin sur le bureau. J'oublie de la ramasser. Parfois, les réals gentiment m'engueulent en disant « Sam, ta tasse, c'est moche. Petite tasse en carton, là. C'est moche. Oh là là, ça va. » Mais ils ont raison, en fait. Ouais. Oui, j'ai vu, Nico Manga, effectivement, les échanges, les polémiques sur les nouvelles règles de Twitch, notamment concernant les sponsoring, tout ça. Mais j'ai vu que ça avait... Il y a Break Brrr qui régale. Et qui offre 5 mois d'abonnement. Qui a besoin de sponsors et de parrains et de pubs quand on a des viewers comme ça? Merci pour les 5 abonnements offerts à la commu. Un jour, il faudra que tu me dises, mais tu m'as déjà peut-être dit comment je prononce ton pseudo correctement, ce serait cool. Marmat 85, 80, plutôt 89,51, je suis imprécis ce matin. Merci pour le 22e mois d'abonnement. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu que Twitch a annoncé des trucs, qu'il y a eu des réactions, qu'ils ont déjà fait une espèce de petite correction qui vont revenir. En arrière, enfin bon, on va suivre ça, on va attendre que ça se tasse un peu pour voir les règles def changées par Twitch. Ouais. Salut la petite perruche de Tim, bon retour parmi nous. Ouais. Bon, je vois un bonjour de Pologne, Shainaz, salut. Nora, j'espère que ce n'est pas toi le ou la malade, même à l'hôpital me dis-tu je ne rate pas ta matinée, alors j'espère que tu dis ça parce que tu travailles à l'hôpital et pas parce que tu es malade ou souffrante, si c'est le cas on t'envoie plein de force, merci Nora en tout cas et merci d'être avec nous. Merci Erwilan pour le deuxième mois d'abonnement. Alors les amis, je vais vous faire bosser un petit peu, je profite qu'on est un petit peu entre nous là. Oh, Marmat, ok, la prochaine fois je laisserai les chiffres de côté. C'est cool que tu aies réussi à trouver des sponsors pour Samplay. Oui, alors effectivement, bon, tenez, je vais vous montrer pour que tout le monde sache de quoi on parle. Hier à 18h tout pile, eh bien, j'ai fait un petit tweet pour annoncer la première. Oh, je vois un raid là, attendez, on annule tout. Voilà, voilà. Oh, si tu reviens, j'annule tout, disait un ancien président, je crois. Je n'ai pas vu qui c'était, c'est les amis de Naotech. Qui nous raide là. Ah, c'est super gentil. C'était Jérôme qui était en live ce matin. C'est Jérôme, ne me dites pas. Ils ont parlé du casque Apple là, hein, sûrement. C'est dans la presse partout ce matin. On en a déjà parlé hier. Je suis sûr que Jérôme s'est régalé avec ça. Peut-être même que vous avez parlé des nouvelles règles de sponsoring sur Twitch. Vous avez parlé de quoi chez Jérôme? Allez voir cette chaîne. Excellente chaîne. Sur YouTube, sur Twitch, Naotech, l'actualité de la tech. Super streamer, super équipe. Ouais. Merci culotte courte, comment vas-tu pour le 7e mois d'abonnement? Vous avez parlé de quoi avec Jérôme ce matin? Damien, j'ai bien aimé ton tweet. Les revues de presse, finalement, c'était juste pour en arriver là, jouer aux jeux vidéo Pépouze, exactement. Tu m'as percé à jour, c'est-à-dire qu'en fait, depuis le début. Effectivement, vous avez parlé avec Jérôme du casque Vision Pro. Ok, je m'en doutais un petit peu. Depuis le début, vous l'avez deviné, en fait, le projet c'était ça. Voilà. Bon, maintenant, je peux vous le dire. Là, le projet n'était pas de vous montrer un écran vide ou Google, mais ça plutôt. Voilà. Depuis le début, évidemment, c'était ça. La rencontre avec Étoile, à la faveur de la crise sanitaire. Donc, voilà. Le Covid, c'était moi aussi. La crise sanitaire, c'était moi. La rencontre avec Étoile, il pense que c'est fortuit, que ça s'est fait par hasard, pas du tout. Tout ça est préparé de longue date, ça fait 10 ans que j'échafaudais ce plan assez machiavélique. Voilà. La revue de presse, ça faisait partie du plan aussi, c'est-à-dire que voilà, partir sur, dans une autre direction pour vous surprendre, mais en fait l'objectif c'était ça, c'était de jouer en fait, tout simplement. Voilà, de me plonger corps et âme, jour et nuit, du lundi au dimanche, en passant pour le mercredi, le jeudi, enfin bref, tutti quanti, aux jeux vidéo. Voilà, tout ça a été préparé. Voilà. Et là, on vient de poser la première brique. Non, non, c'est pas pour la présidentielle de 2027. Non, c'est vraiment juste pour jouer aux jeux vidéo, en fait. Et donc, à la rentrée, normalement, si tout va bien, émission hebdo, ça me plaît, c'est le nom de l'émission. Excellent jeu de mots, je le dis parce que c'est vous qui l'avez choisi. Le titre a été trouvé dans le chat le jour où on s'est brainstormé là-dessus. Donc, à partir de la rentrée, donc on va dire septembre, hein, fin août, début septembre, idéalement, chaque semaine, une nouvelle émission, voilà, et chaque semaine, on découvre un nouveau jeu et un invité qui peut être un gamer, une gameuse, un créateur, une créatrice de contenu, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'univers du jeu vidéo aussi, voilà. Donc, on parle de 32, 34 jeux différents et invités différents l'année prochaine. Et on en fait... Ah, Jiraya, ah, c'est une bonne idée. Ouais. Attendez, faut que je prends des notes. Parce que justement, on a qu'à lire à Kayane pour la première de vendredi. Mais maintenant, j'aimerais... j'ai pas calé l'invité de la semaine d'après, parce que je fais deux émissions test. Hein, donc je me le note. Bon, Jira, je l'adore. L'ami Jiraya. En vrai, c'est pas une mauvaise idée. Pas une mauvaise idée, Jiraya, je l'aime bien. Il est venu au moins trois fois déjà dans les deux Etienne. Et en fait, donc deux émissions test. Donc moi, j'avais très envie de commencer avec Kayane, parce que je l'ai déjà reçu à la maison, et je trouve que c'est une personne assez étonnante, extraordinaire. Grosse énergie, hyper gentille, totalement passionnée par ce qu'elle fait. Voilà. Et donc, voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée d'inviter une professionnelle de l'e-sport, en plus, pour cette première de Ça me plaît. Donc, on va se régaler autour de l'univers de Street Fighter avec Kayane. On va pas que jouer. Hein. On va arriver 20h vendredi, on va se poser tranquillement. On va parler un petit peu de Street Fighter, de pourquoi Street Fighter, pourquoi joue-t-elle à ce jeu, l'histoire un peu du jeu. Très vite, on va commencer à jouer assez rapidement. Vous allez vous moquer, je vais être ridicule, c'est un peu l'objectif. On est là pour passer un bon moment. Elle va nous impressionner, parce que ça je le sais. Et on va parler donc de Street Fighter, de la saga Street Fighter, parce qu'elle n'a pas commencé hier, du rapport de Kayane au jeu vidéo en général, et de l'univers du jeu vidéo en général, son histoire, son actualité, son évolution, son futur peut-être. Et donc ça nous donne une émission à la rentrée, qui n'est pas qu'un coup de projecteur sur un jeu et sur un gamer ou une gameuse, mais qui au-delà nous permet de parler du jeu vidéo tel qu'il est inscrit de façon extrêmement forte aujourd'hui dans la société, sa créativité, son côté créateur de liens d'ailleurs, hein, entre les joueurs, entre les générations aussi. Donc on va pas manquer de matière. Et en plus, moi, ben, du coup, je me suis trouvé une émission, une idée d'émission où je vais passer du bon temps, parce que évidemment je vais jouer et bien m'amuser, je l'espère, et me faire ratatiner par tous les invités. C'est ça qui va être drôle aussi. Voilà le pitch. Et donc on commence avec Kayane vendredi 20h là, pour Street Fighter. Et puis j'ai une deuxième émission test avant la rentrée, qui sera le vendredi suivant. Et j'ai pas décidé encore, j'ai pas trouvé encore le streamer, la streameuse, le gamer, la gameuse. Donc j'ai noté déjà Jiraya, je trouve que c'est une excellente idée. Voilà. Meltox qui a écrit Kayane, elle m'a déglingué sur Street Fighter à la Paris Games Week. Samuel sur Among Us, ça peut être marrant aussi. Tout peut être marrant. Quel genre de jeu cherches-tu? Tous les jeux, Arnaud. En fait, moi je suis d'une infinie curiosité de tout. C'est pour ça que je suis devenu journaliste. Et donc, en fait, j'ai aucun a priori. Tout m'intéresse. D'autant plus que je connais mal cet univers. Et l'idée, c'est de l'explorer, justement. Un vieux machin. Bien sûr qu'il y aura un replay YouTube. Bien sûr. Est-ce que je vais tester LOL? J'ai déjà testé LOL il y a longtemps pour rigoler. Mais on retestera. Pas sûr. Bon, je pense que je trouve le jeu un peu complexe d'approche. Totalement largué même, et donc c'est peut-être pas un des premiers que je testerai, mais on s'y remettra. Dina pour Just Dance. Attendez, Just Dance, faut danser? Faut vraiment danser genre en vrai pour le jeu vidéo ou pas? Je le note, mais s'il faut danser, ça va pas être possible en fait. Dina, Just Dance, qui m'a fait cette gentille proposition? Où es-tu? Faut que je me prenne un peu de café. Le réveil à 2h du matin a laissé ses traces. Où es-tu? C'est Nico Manga. Nico Manga, merci. Bruce Ganek pour FIFA. Ah, et en plus, il est nantais, donc c'est un petit derby. Pas mal. Ok. Ah, pas mal ça. Pff, putain, je vais. En fait, je vais arrêter de bosser. Il suffit de vous demander des bonnes idées. C'est pas même pas la peine que je réfléchisse de mon côté. Vous avez sans arrêt, toujours, de façon permanente, absolue et infinie, des bonnes idées. Voilà. Je rappelle que le nom de cette émission, c'est vous qui l'avez trouvé, par exemple. Bruce. Donc, c'est Granek. FIFA. Bon, je suis nul, mais je crois savoir que c'est un jeu de foot. Ok, je vous lis. Ah non. Lightwags, ça me plaît, ne remplacera pas l'hebdo Etienne. Hein. Si j'arrive à faire naître cette émission, c'est-à-dire à trouver les parrains, les sponsors pour m'accompagner, et que, idem, j'arrive à trouver des parrains, des sponsors pour la saison 2 de l'hebdo Etienne, il y aura ces deux émissions, bien sûr. Link, ah ouais, Link, je l'aime beaucoup, il est venu à la maison aussi. Link sur Rocket League. Oh, vous êtes géniaux. Rocket League. Pas mal, ça. Là, je valide tout ça. Hein. Little Big Whale. Oh, bah, Trivia, bien sûr, ça c'est prévu. Hein. Alors, comme j'ai déjà une fille avec Kayane, peut-être un garçon, peut-être pour la deuxième. Zera, bien sûr. Mister MV, Ava. Que des idées, pour le coup, auxquelles j'avais déjà pensé. Un stream qui n'est pas sur Diablo 4. Non, ici on est. Mais on est quand même sur le jeu vidéo, tu vois. On prépare un petit peu tout ça. Mais on va plutôt lire les journaux dans un instant. Ouais. Ok. Mais j'abandonne pas l'hebdo Etienne, je vous rassure. C'est en plus tout ça. Rayou, évidemment, c'est une de mes premières idées. Voilà. Alpha Cast. J'aime bien aussi Alpha Cast. Qui est venu à la maison aussi. Sur Overwatch, ok. Désolé, hein, je vous fais travailler et je prends des notes sur Overwatch. Et après on me demande, mais d'où sors-tu toutes ces idées incroyables? Bah en fait, c'est pas moi en fait, c'est juste le chat. Hein. Ah non, bien sûr, pas que des jeux populaires comme tu dis Romain, moi je suis ouvert sur tout quoi. Les jeux indés et tout. Hein. Je connais pas Zwift. Romain, je le note. Ok. Bon, ok. Faire des sorties de jeux. Comme Waven. Super jeu français qui sort bientôt. Oh là, bientôt. Mais le problème, il y a trop de bonnes idées là. Trop de bonnes idées. Hâte de voir quel personnage tu vas prendre dans Street Fighter. Faut que je me penche sur la question. Waven, super jeu français qui sort bientôt. C'est pas mal ça, découvrir un jeu, ouais. Je note. Désolé, je pense qu'on va pas faire de vue de presse, je vais juste prendre des notes. Non, je déconne. Il fait chaud ce matin, hein. La vache, j'ai chaud là, je vais enfler mon... Qui sort bientôt. Waven. Ok. Ouais, découvrir. Ah, et on fera ça aussi. Hein. Je pense que certaines émissions seront des émissions un peu d'actu, genre découverte d'un jeu qui vient de sortir. Quoi. Mais c'est là où je serai très à l'écoute de vos propositions d'ailleurs. Je pense que j'ai à peu près 600 messages de retard. Il faut danser pour Just Dance. Bon, ça peut être possible. Ok. Ouais. Arnaud de sa mère pour le jeu de voiture. Ouais, Arnaud, bien sûr. Il y a Captain McBerdick qui m'épingle un message là. Donc ce serait The Great Review. Ok. Et le jeu pour Outer Wild. Bon, en fait, vous êtes en train de faire ma programmation de l'an dernier, l'an prochain. Cool, j'ai rien à faire, comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon anniversaire, Mamie Deli. Humility pour Dofus. Bah, il m'a montré en plus une fois déjà. Ça, c'est prévu, ça, on va faire ça. Lège pour Civilisation. Tiens. Lège, c'est pas le streamer, c'est un streamer hein, qui aime bien les gaufres. Lège, j'avais lu un truc là-dessus. Gaufre de Lège. Excellent Samuel Etienne, pleine forme. Désolé. Un jeu d'horreur avec Magla. Oh ouais, Magla. Jean pour Flight Simulator, c'est impératif Nico Manga. Mintos pour Power Wash Simulator. Oh, il y a trop de... ouais, mais il y a un peu trop de bonnes idées là. Alpha Cast sur Edge of Empire, oh, c'est bien aussi.
Oh non, bon écoutez, je, la revue de presse, ça va attendre. Mintos, ok, Mintos. Mintos pour Power Wash. Power Wash Simulator. Putain, ça, la correction a voulu mettre Power Wash Simulatrice. Merci la correction, quoi. J'ai vu de nouveau Alpha Cast pour Alpha. Pour Edge of Empire. Ça existait même à mon époque, ça. Quand j'étais jeune. Bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc je vois. Bon, je pense qu'il a dû un peu changer depuis, mais ça, ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'étais vert. Pas vert de rage, juste vert frais, quoi. Ok. Gaël Monfils. Ah, la Monf. Ah ouais, trop bien. Notamment pour FIFA, d'accord. Je sais que Gaël, c'est un gamer. Il a streamé aussi. Ken Bogard, vous êtes plusieurs à me parler de Ken. Hein. Pour quel jeu en particulier? Baston. Donc Nintendo et Baston, ok. Et vous êtes précieux quand même. Hein. Vous savez que c'est sans blague, c'est, vous m'aidez beaucoup là. Hein. Link, ouais. Toi, Daniel, GeoGuessr. GeoGuessr, pardon. Ponce sur Mario Kart, c'est une. C'est une. C'est, oui, c'est oublié. Ah oui, c'est vrai, Ponce, putain, il est tellement incontournable là-dessus. Bien sûr. Bien sûr. Humility pour Dofus, c'est une évidence aussi. Jean Massier, vous. Eh ben, Terracine sur Minecraft. Terra, il est bien sur. Oh, c'est excellent. Que des gens dont je connais et j'apprécie le travail. Tout ça. Et on va pas manquer d'idées pour faire ces 32 émissions l'an prochain. Julien Chies, je le connais, mamie, je l'ai reçu. Je l'ai reçu à la maison, Julien, il viendra. Hugo Lissoir sur Star Citizen. Bien ça. Quand je note pas, c'est que en fait je l'ai déjà noté quelque part dans les jours précédents. Star Citizen. Ok. Maxime Biaggi, ok, bien sûr. Laure Vallée viendra obligée, bien sûr. Ponce sur Mario, bien sûr. C'est, ok, on s'en est parlé. Alors, c'est vrai que Poum me rappelle que lors d'une hebdo avec Zera, on avait parlé de faire du Frost Punk ensemble. Eh bien, évidemment, j'ai oublié, j'ai aucune mémoire, mais je le renote du coup. Ken Bogard, surtout Nintendo, psychotique, me le propose aussi. Ah non, Camille, c'est mieux que ça. Camille nous dit, donc, l'année prochaine, ce sera un vendredi sur deux l'hebdo, un vendredi l'émission gaming. C'est les deux. C'est deux hebdos. C'est-à-dire que tous les vendredis, vous aurez l'hebdo Étienne comme d'hab, et un autre jour de la semaine, qu'il faut que je détermine, j'ai pas choisi encore, ce sera ça me plaît. Ça fera deux hebdos. On va essayer de faire ça. Non, merci, Clo-Clo. Bon rétablissement, surtout. The Witcher, ouais, j'aimerais bien jouer à ça. Galak, propose-moi un streamer pour The Witcher. Ah, on me dit que AlphaCast et Overwatch, non. Qu'il a arrêté de jouer. Donc je mets le nom. Qu'il veut plus jouer. Je vous note. Hein. Il y a des débats dans le chat, c'est très intéressant. Ouais. Dofus Multi, oui. Oui. Yannito, pourquoi juste pas choisir un invité qui fait découvrir un jeu qu'il a lui-même choisi? Ah bah c'est l'idée, de toute façon, le pitch il est super simple. C'est, en gros, il vient nous parler du jeu qu'il veut, accessoirement de son jeu préféré. Après là, vous me donnez déjà des idées de pairs gamer, gameuse et jeu, quoi. Mais ça me permet de savoir qui je pourrais inviter, quoi. Mais à la base, il faut qu'évidemment ce soit un choix de l'invité. Il va falloir que tu prévois une petite enveloppe si tu veux acheter des jeux. Oui, culotte courte, et pas seulement pour acheter des jeux d'ailleurs, parce que je vais essayer de faire une jolie émission, donc il va coûter un petit peu de sous. Donc c'est pour ça que j'ai besoin aussi de sponsors et de parrains, sinon il n'y a pas d'émission. Défécateur officiel, notre ami, nous dit du rétro gaming aussi. On en fera, on en fera. Je vous lis. Vous avez plein de super idées là. Hop, je descends un petit peu en bas du chat. Amourante pour du ASMR. Mais alors, qu'est-ce que c'est comme jeu vidéo ça, hein? C'est la, hein? Qu'est-ce que c'est comme genre de jeu vidéo ça? Qu'est-ce que c'est que ce genre de... À quel genre de jeu vous voulez que je joue en fait avec ce... Hein? Quel est le... Où est-ce que vous voulez m'emmener là? Tu feras quel jeu avec Zerator? Le jeu, Antoine, qu'il aura envie de... d'évoquer avec moi. Tiens, j'ai un petit message d'une amie. Ouais. Eh ben, c'est pas mal. N'hésitez pas à m'envoyer des petits DM sur Twitter, d'ailleurs, pour me faire des propales. Mais en tout cas, là, vous m'avez régalé, en vrai. Dame, dame, c'est quand même... Bien sûr. J'adore. Prêt pour vendredi? Je suis prêt. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous serez là vendredi. Parce qu'évidemment, moi, c'est mon idée, c'est mon... Comment dire, c'est un peu mon... C'est une obsession, hein, ça. Je songe à cette émission depuis un moment. Évidemment, vous imaginez bien que je ne l'ai pas imaginé il y a une semaine. Ça fait longtemps que je réfléchis à ce concept. Voilà. Très envie de m'immerger dans cet univers du jeu vidéo. Après, il faut que ça vous plaise, que ça vous amuse, cette démarche-là. Le pitch, il est Samuel Etienne, 52 ans, qui a joué pour la dernière fois au jeu vidéo en 1988. La plupart d'entre vous, vous n'étiez pas nés. Eh bien, se lance dans... dans la découverte de cet univers qui est super riche, qui est celui aujourd'hui du jeu vidéo. Et après, si ça plaît pas, s'il y a pas trop de monde, bon bah je passerai à autre chose. Hein. Moi, je pense que c'est une super idée. J'ai très 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 envie et je soupçonne beaucoup de liberté et de plaisir dans cet exercice. Mais après, il faut que ça vous plaise, bien sûr. Donc, et les deux émissions test qu'on fait la vendredi et le vendredi d'après, et bah, justement, c'est pour voir si ça le fait, quoi. Hein? Cyberpunk 2077, ouais. Ok, en tout cas plein de propals sympas. Ouais, l'idée c'est d'en faire une toutes les semaines, bien sûr. Tom, en fait c'était une blague quand je disais c'est quoi comme jeu ASMR. En fait je fais plein de blagues nulles comme ça tout le temps. Donc c'est un peu compliqué parce que elles sont dures à repérer tellement elles sont nazes mes vannes. Donc je sais qu'il y a mourante et je sais que ASMR c'est pas du jeu vidéo. Mais merci, c'est super gentil de ta part de m'expliquer un petit peu. Voilà, il y a vraiment des gens chou quoi quand même. Hein. Très bonne... Très bon clin d'œil de MMGCTF qui nous dit en tout cas, moi, ça me plaît. On peut te contacter ou si on a une idée ou te proposer, ça, bien sûr. Lloyd, en fait, mes DM sont ouverts sur Twitter, donc tu m'écris autant que tu veux, quoi. Bertrand Hamard, il viendra, Bertrand Hamard. Bien sûr, bien sûr. Bon, allez, je me dépêche parce qu'en fait, je suis obligé de vous laisser à 11h30. What? Quoi? Oui, oui, je sais. Ça fera un stream de 2 heures en tout. C'est très, très court. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'emmène mon petit Malo, mon aîné de bientôt 7 ans, chez le dentiste. C'est important. Et je l'emmène à midi. Donc, j'ai mis le réveil là, à 11h30. À 11h30, je file. Donc, c'est dans 1h30. Autant dire qu'il faut lire les journaux. Hein, sinon, on ne va pas y arriver. Mais on va essayer de se mettre une bonne énergie. Et on y va donc. Oui, courage aux petits. Attends, c'est une visite de comment dire, de pas de courtoisie, mais de une visite prévue, quoi, une visite de routine entre guillemets. Voilà, pour voir si tout va bien au niveau de ses dents et tout. Ah, peut-être de contrôle. Voilà, peut-être qu'il y a il y a nada. Hein. Voilà. Donc bon, souvent moi quand j'allais gamin pour les visites de contrôle, on allait un peu au-delà du contrôle, quoi. Donc j'espère que pour Malo ça va bien se passer. Il commence à perdre ses dents, chouchou, là. Ça, il a deux petites, ses deux premières petites dents de lait là, trop mignon. La souris qui passe, tout ça. Sef, merci pour le 5e mois d'abonnement. Damo 007, merci pour le 6e mois d'abonnement. Couyoutxx, merci pour le 4e mois d'abonnement. Mamie Deli, merci encore pour le 5e mois d'abonnement. Ouais, ouais, bien sûr, je ferai ça chez un GPT, que je vais moi m'immerger aussi. Ouais. Elle existe vraiment, la souris des dents? Bien sûr qu'elle existe, la souris des dents. C'est parti. Bon, d'abord, il faut que je mette ça dans l'ordre. Attendez, hop, je vous mets la caméra zénitale pour vous faire comprendre ce que je fais. Ça, c'est les journaux que j'ai lus ce matin de France Info et je me les mets dans l'ordre, le petit ordre, la petite hiérarchie de ma revue de presse. Bon, là, par exemple, j'ai un nouvel article sur le casque Vision Pro d'Apple. On en parlait déjà hier, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ok, ça, c'est sur ce qui s'est passé là sur le barrage en Ukraine. C'est important. On va mettre ça au début. La Croix en parle aussi. Mais c'est l'article de Libération parce que j'ai choisi un article, bien sûr, sur ce sujet. Ici, là, sur le barrage qui a subi une explosion hier et qui s'entraîne énormément de conséquences humaines, environnementales et même sur le conflit. Donc ça, on en parlera. Hop, mais c'est l'article de Libé qu'on lira. Oh, ça, c'est OK. Dans Libé, tiens, moi, je vous fais le sommaire en même temps. Donc vous voyez, l'histoire du barrage, c'est en une du Figaro. C'est en une de la Croix, donc on regardera rapidement les titres. Ça vous montre que c'est très très présent ce matin dans vos journaux. C'est aussi à la une de Libération. Et dans Libération, eh bien, hop, je vous parlais d'autre chose. Une étude assez carrée de l'Institut des politiques publiques sur l'impôt payé par les ultra-riches. Pas les riches, pas les très riches, pas les très très riches, les ultra-riches. D'ailleurs, on parle de quelques dizaines, quelques centaines de foyers en France, selon la définition qu'on retient. Et la conséquence, ce qu'a découvert cette étude, c'est que passer un certain niveau de richesse, mais c'est très haut, hein, c'est énorme, hein, je crois qu'on parle de... on est à partir de 900 000 euros de revenus par an, hein, pour un foyer fiscal. Quand on commence à être très très riche comme ça, à partir de 900 000 euros de revenus par an, eh bien à partir de 900 000 euros, plus on va vers les ultra riches, les gens pour qui un foyer fiscal 900 000 euros c'est un petit peu des pauvres, donc les gens vraiment très 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 riches, plus on va vers ces gens, voilà, qui gagnent genre 35 millions par an par exemple, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a, eh bien on se rend compte que les ultra riches payent moins d'impôts proportionnellement que les riches, que les très riches. Pourquoi ? Comment se fait-ce ? Eh bien, on lira ça. On prendra le temps parce qu'il faut aller doucement pour ne pas dire des conneries, pour ne pas se tromper dans l'analyse, mais je vous ai mis ça de côté. Voilà. Donc ça, c'est les impôts. On fera quand même un point sur la 14e journée d'hier de mobilisation contre la réforme des retraites. Bon, vous avez peut-être vu les actus ce matin. Faible mobilisation. Hein, c'est, disaient des confrères ce matin, la plus faible en mobilisation des 14 journées, voilà, donc il y a beaucoup de journaux ce matin, presse nationale, presse en région, qui disent bon, est-ce que c'est la fin, est-ce que c'est le baroud d'honneur de ce mouvement contre la réforme des retraites, en tout cas, bon, il y a moins de monde dans les rues, ça c'est sûr, donc l'Humanité en parle ce matin, mais aussi du fait, merci Camille, tu régales, merci beaucoup. Merci Pépin Camille pour les 5 abonnements offerts à la commune, merci Didier pour ce 13e mois d'abonnement, et l'Humanité parle d'autre chose, l'Humanité reconnaît qu'effectivement, voilà, le truc... À un moment, on ne va pas se mentir, comme le dit IndieCase dans le chat, c'est terminé. On ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas parce que ce mouvement contre la réforme des retraites est terminé que cette énergie, cette mobilisation au niveau des manifestants, au niveau des syndicats, ne va pas donner autre chose sur d'autres sujets. C'est ce que nous dit l'Humanité ce matin. On lira ça. Voilà. Notamment plus d'exigences démocratiques. Le Parisien nous reparle de ça. Ce n'est pas la première fois. Et je crois que la dernière fois déjà, c'était le Parisien, notamment de l'abaya. L'école face au défi de l'abaya. Donc l'abaya, c'est cette tenue-là pour les filles ou pour les femmes, et que vous voyez de dos ici. Pourquoi on en parle ? Pourquoi le Parisien en parle ? Parce que les incidents liés au port de cette tenue à l'école, école, collège, lycée, dont le port est encouragé par l'islam rigoriste, les incidents se multiplient dans les établissements français. Qu'est-ce qu'on entend par incident ? Le ministre de l'Éducation a quand même réuni les recteurs d'académie sur ce sujet. Voilà, donc on reparlera de ça, c'est pas la première fois, pour voir quelles sont les interrogations par rapport à ça. Voilà. Et puis, ça. Édouard Philippe, on voyait à peu près ancien Premier ministre du président Macron. On est sur la droite LR, on va dire traditionnelle. On est sur quelqu'un qu'on présentait comme un juppéiste. Voilà. Et puis, il y a un petit virage là d'Édouard Philippe sur l'immigration. Et on a un ton, des propos, des propositions, comment dire, pas très éloignées de celles de la droite la plus radicale, pour ne pas dire pas très éloignées de celles du Rassemblement National. Voilà. Pourquoi Édouard Philippe fait ce move sur l'immigration aujourd'hui ? Ben, voilà, petite analyse dans le Parisien. Il n'est pas impossible que c'est un rapport avec une éventuelle candidature à la présidentielle de 2027. Voilà, ça a pu surprendre certains, ce petit mot. Petit fan, c'est très gentil, merci pour l'abonnement. Et c'est pas tout. Alors, ouais, dans les échos, j'ai deux articles sur le casque Apple. Là. Voilà, tiens, on le voit d'ailleurs ici. Alors, on vous en a déjà parlé hier, mais bon, vu la montagne de réactions sur l'outil, là, je pense que c'est bien d'en reparler un petit coup ce matin. Salut Pounia, bienvenue, bon retour. Voilà. Et puis on parlera un petit peu de Roland Garros parce que bah là on est en dernière semaine et ça devient très 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 sérieux. On est dans le dernier carré parce que je crois qu'on connaît les quatre affiches des quatre demi-finales, hein, si je dis pas de bêtises, de Roland Garros. Et moi je trouve personnellement que c'est quatre très très belles demi-finales, notamment cette espèce de choc de fou entre Djokovic qui rêve d'un 23e titre en Grand Chelem et le jeune qui monte très très fort, Carlos Alcaraz, l'Espagnol, 19 ans, qui lui rêve d'un premier titre en Grand Chelem. Ça ne saurait tarder. Est-ce que c'est à Roland-Garros ? Eh bien, on verra ça. Voilà. Eh bien, on a notre petit ordre. C'est pas mal. Ok. On est ensemble pour 2 heures en tout. Il reste 1h30 à peine, donc on va très très vite ce matin. Désolé. Après, c'est dentiste. Alcaraz, ah, il a ses fans, Alcaraz. C'est vrai qu'il a une énorme cote de popularité. Je le vois dans le chat. Pourquoi vous me parlez de Pompidou ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit un truc. Vous êtes plusieurs à dire. Et Pompidou ? Par rapport à quoi ? J'ai zappé. Tu fais ça tous les matins, Minoyen ? Ouais, quand je peux, ouais. Sauf quand j'ai question pour un champion, c'est impossible. On essaie d'être là tous les matins. Pompidou. Pompidou et Chirac. Excusez-moi, vous parlez de quoi ? J'ai dû dire un truc qui n'allait pas, mais j'ai oublié. Ou alors vous parlez entre vous d'un truc ? Pompidou, c'était quoi ? Racontez-moi, parce que j'ai Keblo là sur les gens qui me disent hey, pourrais-tu oublier Pompidou ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, c'est une réponse à un com. Ah, parce que bon, je suis pas tellement étanche le matin et parfois je suis à côté de mes pompes et du coup, je n'ai pas parlé de Pompidou. Ok, d'accord. Sur le premier homme à avoir été Premier ministre et président. Ah oui, quelqu'un a dû dire que Édouard Philippe pourrait devenir le premier homme à avoir été Premier ministre et président, effectivement, et certains ont rappelé Jacques Chirac. Jacques Chirac qui a été Premier ministre, ou Valéry Giscard d'Estaing qui est devenu président. Quelqu'un me parlait de qui encore ? De Pompidou, Premier ministre de Gaulle, qui est devenu président, effectivement. Vous avez raison. Bien joué. Hey, bravo. Ah, je dis une bêtise, Alcaraz a déjà gagné l'US Open. La vache, il a déjà gagné l'US Open. Putain, je suis nul. T'es un si jeune, donc il a déjà gagné un grand chelem. Ah, on ne connaît pas encore la deuxième demi-finale chez les hommes, mais je croyais que c'était Rude contre Rune. C'est un quart en fait. Donc le Danois contre le... C'est Danois-Norvégien, c'est ça Rune contre Rude, c'est un quart. Ah, je pensais que c'était une demi. Ah, il reste 2 quarts chez les hommes. Ah bah ouais, bon bah je me suis gouré. Bah ouais, voilà. Comme je le dis souvent, vérifiez les propos des journalistes parce que c'est une activité humaine, donc faillible, voilà. C'est comme quand un boucher vous prépare un steak, parfois il est un petit peu plus gros. Voilà, il a failli un petit peu, c'est pas le steak parfait. Bon, ben moi c'est sur les demi et les quarts, je me suis un peu raté. Ouais, Rude est toujours là. Ouais, donc en quart, je viens de le comprendre, il rencontre Rune. Ok. Ah, c'est en gagnant l'US Open qui est devenu numéro 1. Ok. Bon, je pense que pour le tennis, là je vais avoir besoin de vous. C'est comme pour le jeu vidéo. Pounia 31, je sais plus si je t'ai dit merci. Je crois pas, hein. Merci pour le 22e mois. Sandrine, Samuel, s'il te plaît, est-ce que tu as un truc pour parler autant et conserver ta voix ? Des exercices ? Non, mais je pense qu'en fait, je me suis habitué et inconsciemment, je parle toute la journée, hein, entre France Info, question pour un champion, ici, et les histoires aux enfants, je parle. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai trouvé des façons pour parler le plus distinctement et le plus fort possible, sans pousser trop, sans tirer là, pour que ça tienne en fait. Voilà. Merci GG pour le 6e mois d'abonnement. Bon, on lit tout ça, hein? Ouais, sympa l'info bancale. Non, non, mais moi je reconnais que j'ai parfois dit des bêtises. D'où l'intérêt d'ailleurs de Twitch, parce que quand vous dites une bêtise à la télé en mode vertical, vous émettez une information, il ne peut pas y avoir de retour, de commentaires de ceux qui vous regardent. Et quand vous émettez une info ici et que c'est une grosse connerie comme ce que je viens de dire sur l'écart à la demi homme de Roland Garros, bah, là c'est corrigé tout de suite, ce qui veut dire que ceux qui écoutent à côté et qui n'avaient pas repéré l'erreur, eh bien, ont la bonne info, et ça c'est grâce à vous, ça c'est top. Comme le souligne Régis avec beaucoup d'humour, dire que le présentateur de France Info, qui est moi, restera dans l'erreur alors que Samuel, grâce à son chat, devient plus intelligent chaque jour, c'est moi aussi. Exactement, c'est exactement ça. Bon télétravail, Lolo. Pova nous fait un commentaire assez intéressant sur la gestion de la voix. Et Pova nous dit « Perso, quand je parle trop, je dois aspirer de l'air parce que ça me fait roter. » Moi, je dis... Exactement. Non, moi, c'est pas trop ce problème-là. Par contre, c'est vrai que quand je parle trop, je dois aussi avaler un petit peu d'air parce que je pète énormément. Voilà. Je ne rote pas trop. Alors, tant mieux parce que du coup, ce serait pas très chic, hein, parce que vraiment, je parle beaucoup, beaucoup. Mais je pète beaucoup, sans doute parce que j'avale de l'air aussi. Et comme, alors pour le coup, quand vous rotez, la bouche est tout près du micro, donc c'est pas très discret. Mais même quand vous n'êtes pas de très grande taille comme moi, l'endroit où ça se passe au niveau des proutes, hein, il faut le dire, est plutôt éloigné du micro. Si vous le faites de façon un petit peu habile et maîtrisée, en fait, ça ne va pas s'entendre. Voilà, ça va se sentir éventuellement pour l'équipe avec qui vous travaillez. J'ai parfois 4 personnes autour de moi, mais ça ne va pas s'entendre. Voilà. Donc, c'est un petit handicap, mais qui finalement m'a pas tant pesé que ça, puisque j'ai réussi à le gérer. Quoi. Ah, je kiffe. Battle 4, comment Battle 4 exactement? Coldrin 50 dit, ah, les pauvres sur le plateau, les pauvres dans l'équipe de Samuel, bah ouais, mais enfin bon, ça se mérite de bosser avec moi, je veux dire, voilà, c'est une chance, hein, de bosser avec un vieux comme moi, avec son expérience, qui donne des petits conseils, qui accompagne et tout, donc à un moment, si tu veux, voilà, ça peut avoir un prix. Bon, pour le coup, le prix, il est au niveau olfactif. Voilà. Voilà. L'envers du décor, ouais. Peut-être que tout le monde pète sur le plateau, je ne dirais pas pour les autres. Je ne dirais pas pour les autres. Voilà. Bon, en tout cas, il y a une clim très efficace, donc ça reste jamais très longtemps non plus. Voilà. Oh, si j'imagine, je sais pas, si j'ai. Parfois je pense que. Parfois je me dis, tiens, c'est... peut-être que... Parfois je me dis, tiens, je... dans le chat, il y a peut-être quelqu'un de. Genre un de mes patrons en France Télévisions qui me regarde, quoi. Et qui tombe sur mon stream en mode ah, mais on parle beaucoup des streams de Sam, là, tu as regardé, ça a l'air, tout le monde en parle et tout. Et il arrive sur cette séquence, tu vois. Et je pense toujours à ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'était. Tu vois, genre. Oh, mais c'est spécial, hein. C'est spécial, hein. C'est, après, la personne rentre au bureau, tu vois, discute avec ses collègues. Et... Vous avez regardé, vous, Samuel Etienne, sur Twitch le matin Oui, vous aimez bien. Oui. C'est spécial, hein, quand même, hein. Spécial. Ouais. Drôle. Bon, les go. On lit. Est-ce que j'ai un go pour lire les journaux de façon un petit peu... On va tryharder l'actu, hein, ce matin parce que je vous quitte à 11h30. Je vous abandonne comme une vieille chaussette. Est-ce que j'ai un... Yes. Est-ce que j'ai un... Yes, ok, j'ai un yes. Un let's go baby, exactement, naturel à rêve. C'est parti. Je redeviens un petit peu sérieux parce que ça, c'est... très bonne, Sandrine. Samuel, c'est que du vent. Le vent, le prout, bravo. Elle est bonne. Elle est très, très bonne. Ça c'est une des grosses actus du moment, on vous en parlait dès hier matin dans la matinale de France Info, hein, sur cette explosion sur ce barrage, le barrage de Kharkova en Ukraine. Les deux camps, les deux parties au conflit de la guerre en Ukraine se renvoient la responsabilité, les Ukrainiens accusent les Russes les Ukrainiens. Je lis les infos pour ceux qui ne l'ont pas et puis on va lire l'analyse dans Libération. Éventré mardi par une explosion, c'était hier matin. Oh, la scène, Samuel, la scène, excusez-moi. Figaro, on est avec le Figaro. Hop, je me décale un petit peu. Éventré mardi par une explosion, le barrage de Kharkova déverse actuellement ses 18 millions de mètres cubes d'eau vers l'aval du fleuve, inondant le sud de l'Ukraine jusqu'à Kherson, redessinant la ligne de front. Ça a des conséquences sur le conflit. et compliquant le lancement attendu de la contre-offensive ukrainienne. Donc il y a des conséquences humaines avec des populations qui sont menacées par ces inondations, des conséquences écologiques qui sont importantes et des conséquences également sur le conflit. Est-ce qu'on peut avoir envoyer un max de force à Lou Actu, que je connais bien, qui passe un oral dans quelques minutes et qui nous dit qu'il a besoin de force. Lou Actu, envoie-lui, bref, send him some force, please. Gus, avec plein de U, merci d'être là, merci pour le 15e mois. Aurélien, merci pour le 6e mois. La Croix en parle aussi ce matin. Je passe vite sur les unes parce que c'est un article de Libération qu'on lira là-dessus. Et merci pour le petit message à Lou Actu. Le Dniepr, donc un fleuve dans la guerre. La destruction du barrage de Kharkova est une opération majeure de la guerre en Ukraine. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'en être à l'origine. Je vous en parlais un instant. Prenons Libération parce que c'est l'article de Libé qu'on va lire là-dessus. Guerre en Ukraine, la stratégie de la terre inondée. Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité de la destruction du barrage qui pourrait déclencher une crise humanitaire et ralentir la contre-offensive ukrainienne. Babylonien nous dit que j'avais hâte d'arriver sur la matinale pour comprendre cette histoire. Eh bien, je vais tenter de vous l'expliquer. Je vous ai mis l'article de Libé de côté parce que je trouve que ce matin, c'est le plus complet sur le sujet. Barrage en Ukraine, les flots et l'effroi. 18 milliards de tonnes d'eau ont commencé à se déverser dans la partie aval du plus grand fleuve d'Ukraine, donc le Dniepr, après la destruction du barrage de Nova Kharkova. L'ouvrage, contrôlé par l'armée russe depuis le premier jour de l'invasion de l'Ukraine, a cédé dans la nuit de lundi à mardi, faisant certainement de nombreux morts, indique la Maison Blanche, puisque les États-Unis suivent ça avec beaucoup d'intérêt. L'administration parallèle de la région de Kherson, mise en place, donc c'est les forces russes, hein, par Moscou, estime que les territoires côtiers de 14 localités où résident plus de 22 000 personnes sont menacées d'inondations. Je crois que des consignes, des ordres d'évacuation ont été donnés. Sur l'autre rive, contrôlée par Kiev, 80 communes et environ 16 000 personnes, donc au total vous avez 38 000, près de 40 000 habitants, devraient être également touchés par la montée des eaux. Donc à l'instant, la Libération parlait d'une crise humanitaire. Il s'agit de ces populations. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai mis de côté sur le barrage. Ok, bon, d'accord, j'étais un peu paresseux au niveau de la rue de presse. C'est pas grave, je vais vous résumer tout ce qu'on a dit ce matin sur France Info. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut dire d'abord qu'il y a l'aspect humain que je viens d'évoquer avec les populations qui, on l'espère, vont être déplacées à temps, puis après il va falloir qu'elles se relogent. Il y a l'aspect militaire qui est important aussi. Pourquoi? Parce que on attend une vaste contre-offensive des forces ukrainiennes contre la Russie. On se demande même si elle n'a pas déjà commencé. Et en fait, ces inondations vont sans doute gêner, ou peut-être gêner, cette grande contre-offensive ukrainienne. J'avais un article qui en parlait ce matin. Où est-ce que je l'ai mis? Bref. Et qui disait en fait, et qui disait que l'intérêt des Ukrainiens, c'est d'avoir une très longue ligne de front pour que les Russes ne sachent pas où ils allaient attaquer. Et là, du coup, ben, y a une zone où ils, a priori, ils vont pas pouvoir attaquer en raison des surfaces inondées. Coldrine 56 me dit la surface inondée doit être immense, exactement. Et puis l'aspect écologique dont on vous a beaucoup parlé ce matin dans la matinale de France Info, avec David Lefort, notre spécialiste science, parce que en fait, notamment il y a une réserve naturelle dans le coin, voilà. Il y a une baisse brutale du niveau des eaux, donc en amont du barrage, qui menaçait tout un écosystème. Et donc certains parlent d'une crise écologique comme on n'a pas eu depuis des années. Non seulement en Ukraine mais en Europe. Voilà un petit peu tous les enjeux humains, stratégiques et environnementaux. Voilà. Et on va continuer à suivre ça dans les prochains jours. Et puis comme le dit Défécateur, on voit évidemment pas mal de spéculations sur les réseaux sur qui est à l'origine de la destruction. Qui est à l'origine de la destruction? Les deux parties se renvoient la responsabilité. Les Russes disant que c'est les Ukrainiens, les Ukrainiens, ce sont les Russes. J'ai lu pas mal de choses intéressantes ce matin qui disaient notamment que le soupçon pointe quand même est dirigé vers les forces russes. Pourquoi? A priori, ceux qui détenait, qui maîtrisait, qui contrôlait la zone de l'ouvrage, c'était les forces russes depuis le début de la guerre. Voilà. A priori, on est prudent pour l'instant, le barrage, l'ouvrage n'a pas été frappé par des bombardements, mais par des explosions qui seraient des explosions internes, voilà, au barrage. Donc c'est pour ça que les Russes sont davantage soupçonnés. Dernière raison pour laquelle les soupçons se dirigent plutôt vers la Russie, qui avait intérêt à ce que ce barrage soit endommagé et provoque ces inondations énormes qui vont geler le front dans une certaine zone et empêcher la contre-offensive que préparaient peut-être les Ukrainiens dans cette région. A priori, c'est les Russes qui avaient aussi un intérêt pour cela. Donc les deux parties se renvoient la responsabilité, mais les soupçons pointent la Russie. Après, il y a aussi un article ce matin que j'ai lu qui se demandait si l'explosion, plutôt à l'intérieur en fait, du barrage, de l'ouvrage, comme je vous l'ai dit, est-ce que cette explosion ne serait pas d'origine accidentelle ? Voilà. Un ouvrage contrôlé par les Russes, mais une explosion accidentelle qui n'aurait pas été provoquée volontairement par les Russes. Voilà. C'est une autre piste. Donc là, pour le coup, comme je n'ai pas retrouvé l'article que je vous ai mis de côté là-dessus, ben je vous dis ce qu'on a dit ce matin sur France Info. Je crois qu'on a été assez complet là-dessus. On a été assez complet aussi sur le bilan qu'on pouvait tirer de la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et on va en parler, nous, dans un instant. Si vous avez des infos de première bourre sur le qui a provoqué ces explosions, ça m'intéresse. Il y a Nekoda qui dit que la théorie qui ressort le plus actuellement, c'est que les Russes voulaient créer une brèche dans le barrage pour inonder les positions ukrainiennes, mais qu'ils ont perdu le contrôle et la destruction aurait été plus grande que prévu. Ok. Ouais. Ma dromadaire en même temps s'interroge, est-ce que c'est possible de faire exploser un barrage accidentellement? Est-ce qu'il y a vraiment des trucs explosifs dedans? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Et Raoul Razorba qui écrit, et tu as raison, est-ce que la théorie qui ressort le plus vaut pour preuve? Bien sûr que non, bien sûr que non. C'est pour ça qu'il faut être très prudent et qu'on verra si dans les prochains jours on a des prochaines... On a de nouvelles infos un peu plus carrées. Quoi. Et Caradoc qui dit, que je connais bien, sur Twitch, c'est plus souvent des infos de mecs bourrés que de première bourre. Non, pas sur cette chaîne. Non, pas avec cette communauté. Là, on est plutôt, je le dis très sérieusement, d'expérience, on est plutôt sur des infos de qualité. Là, je parle de vous pour le coup. Donc voilà, Libération, je voulais vous en parler aussi pour autre chose ce matin, sur parce que ça je suis sûr que ça va beaucoup faire parler, ça fait déjà beaucoup parler. Cette étude d'ampleur des libérations de l'Institut des politiques publiques qui révèle, donc ça relance le débat sur les impôts en France, est-ce qu'il faut plus d'impôts, est-ce qu'il faut plus d'impôts pour notamment les plus riches et notamment pour les ultra-riches, ce qui n'est pas la même chose. Cette étude d'ampleur de l'Institut des politiques publiques révèle que, écoutez bien, les 75... foyers fiscaux, on parle de 75 familles, hein, c'est que dalle, hein, 75 foyers. Les plus fortunés du pays, donc là on parle des ultra-riches, c'est-à-dire plus riches que les riches, plus riches que les très riches, plus riches que les très très riches, plus riches que les très 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 riches, les ultra-riches, on parle de 75 foyers fiscaux, c'est que dalle. Eh bien ces 75 foyers fiscaux les plus fortunés du pays sont taxés en moyenne à 26% de leurs revenus économiques, beaucoup moins que l'ensemble des ménages les plus aisés. Pas beaucoup moins que les Français. Vous savez qu'il y a une grosse partie des Français qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu. Hein. Donc on va pas dire cette phrase qui n'aurait pas de sens. Les ultra-riches en France sont beaucoup moins imposés que les Français, parce que 26% c'est quand même un taux d'imposition. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont moins imposés que la moyenne des riches et des très riches. Voilà, c'est ça ce que dit exactement cette enquête, ne lui faites pas dire autre chose. Voilà. Sandrine dit, Sandrine, t'es en forme, j'aime bien. Sandrine qui dit, mais les ultra riches, est-ce que ce sont des riches extrémistes? Ultra, très bien. Mmh. Mmh. Bien sûr, Chris Prolls, merci pour ton message. Si la question des pourcentages peut effectivement être choquante, écris-tu, sait-on combien ça représente exactement en cours en euros d'imposition? Ils sont peut-être moins imposés en pourcent, mais qui représentent bien plus en euros. Oui, sauf que, petit cours de fiscalité en France, le principe de l'impôt sur le revenu, l'IR, c'est que c'est un impôt progressif. Plus tu gagnes, plus tu as des revenus importants en France, plus ton IR est important proportionnellement, en taux. Hein. Bon, je pourrais vous montrer les taux, on le fait souvent pour que ce soit très parlant. Mais en fait, plus tes revenus sont importants, plus ton taux marginal d'imposition, le marginal est important, je ne rentre pas dans le détail, il est important. C'est-à-dire que, imaginons que, je dis n'importe quoi, si tout le monde était taxé à 20% pour les gens qui sont imposables. Bon, évidemment, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ces 20% représentent plus d'euros que quelqu'un qui a un petit salaire, ça va sans dire. En France, ce n'est pas notre système. Certains le proposent. Hein. Vous avez dans la classe politique française des gens qui proposent plutôt à droite un taux d'imposition qui serait unique pour tout le monde en disant bah voilà, 20% de quelqu'un qui gagne un million par an, bah, ça rapporte déjà beaucoup d'argent. Ce n'est pas la peine de l'imposer à 30 ou à 35 ou à 40 ou à 45%. En France, c'est pas ça. Vous avez un taux marginal d'imposition. Attendez, je vais vous le montrer parce que c'est quand même super plus lisible. Je pense que tout le monde le sait, mais toujours bien de le rappeler. Donc, on va mettre le barème. Je vais vous montrer le barème de l'IR. Voilà. On va sur servicepublic.fr, comme ça, la source elle est nickel, pour que ce soit vraiment parlant pour tout le monde. Parce que parfois, il y a des gens qui ne sont pas au fait de ça, et c'est important. Si vous gagnez moins de 10 777 euros, donc en net fiscale, hein, par an, eh bien vous payez pas d'impôt, vous n'êtes pas imposable. Si vous gagnez entre 10 778 et 27 478, bon, je vais arrondir à chaque fois, sinon on ne va pas y arriver, 11% de ce revenu, vous le payez en impôt. Attention, ça se complique. Si vous gagnez entre 27 000 et 78 000 euros, vous payez 30% d'impôt. Mais attention, pas 30% de tous vos revenus. Non, vous allez d'abord payer 11% de vos revenus, compris entre 10 000 et 27 000, d'accord ? Et ensuite, vous paierez 30% des sommes qui sont au-dessus, et ainsi de suite. Par exemple, si vous gagnez entre 78 000 et 168 000 euros par an, ce que je vous souhaite, eh bien, vous paierez 41%. Non pas 41% d'impôt sur tous vos revenus. 41% d'impôt sur vos revenus compris entre 78 et 168, puis, ou plutôt avant, vous aurez payé 30% d'impôt sur vos revenus entre 27 et 78, et vous aurez aussi payé 11% d'impôt sur vos revenus compris entre 10 000 et 27 000. Un impôt progressif. Et enfin, si vous gagnez plus de 168 994 euros par an, ce que je vous souhaite encore une fois, eh bien vous paierez 45% d'impôt, non pas sur la totalité, mais 45% pour toutes les sommes qui seront supérieures, enfin tout ce qui dépassera les 168 000 euros, j'espère que c'est clair. Donc, le choix qui a été fait en France, c'est non pas le même taux pour tout le monde, c'est que plus on est riche, plus on a des revenus importants, et plus le taux marginal, c'est pour ça que le marginal est important, c'est ce que je viens d'expliquer ici, est important. Bon, après, il en reste toujours. Bon, à titre personnel, j'ai toujours dit que moi, par exemple, j'étais très content de payer beaucoup d'impôts parce que j'ai quand même remarqué que c'était parallèle, c'était une espèce de... il y avait une espèce de lien assez étroit entre le fait que, comme je travaillais de plus en plus et puis l'expérience, les boulots me rapportaient un peu plus que quand j'étais tout jeune, eh bien, il y a quand même... certes, je payais de plus en plus d'impôts, mais mes revenus étaient aussi de plus en plus importants. Et ce qui me restait de plus en plus important. Voilà, c'est corrélé, merci Défécateur, malgré l'augmentation du taux marginal d'imposition. Voilà. Donc, bon, moi, je fais partie de ces gens. Bon, après, on comprend pas, on valide ou on valide pas, qui sont contents de payer des impôts. Voilà. Parce que ça, d'abord, parce que ça veut dire que si j'en paye, c'est que j'en gagne. C'est con, mais c'est ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient payer beaucoup d'impôts. Et puis, je suis content, comme plein d'autres, de penser que cet argent contribue à financer plein de trucs importants. Alors, évidemment, il y a des débats là-dessus, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais moi, je veux pas que mes impôts ils servent à ça, etc. » Cet argent, il va servir à construire des routes, à construire des hôpitaux, à construire des écoles et tout. Parfois, il sert à des conneries, mais voilà, c'est comme ça. Donc, pardon pour cette petite parenthèse. Et on revient à notre débat. C'est ici. Qu'est-ce qui se passe avec les ultra-riches maintenant ? En 2016, les 75 foyers fiscaux les plus riches en France ont eu un taux moyen d'imposition global largement inférieur aux 37 800 ménages les plus fortunés du pays. Vous prenez les 75 foyers les plus riches, ils ont payé proportionnellement moins d'impôts que les 37 800 ménages juste en dessous, également très riches. Voilà. On va dire que les giga-riches, d'après cette étude, sont taxés à 26% de leurs revenus, alors que les très riches sont taxés à hauteur de 46%. Comme le dit Defecator, il y a des inégalités entre les riches. C'est exactement ça. Autrement dit, au sommet de la hiérarchie économique, on parle de très très peu de gens. Plus on gagne d'argent, moins on est mis en contribution en proportion de ses revenus. C'est la conclusion d'un travail assez rigoureux qui a été rendu public mardi par l'Institut des politiques publiques. Du coup, c'est un truc qui est éventuellement de nature à relancer la question de l'impôt en France et de la taxation de ces giga-riches, puisque ça remet cette espèce de dogme de la progressivité de l'impôt que je vous expliquais à l'instant, j'ai pris un petit peu de temps. Selon lequel, eh bien, plus vous gagnez d'argent, plus proportionnellement vous êtes imposé. Alors, en l'occurrence, vous allez voir que ça concerne quand même très peu de gens, peut-être que certains sont concernés dans le chat, et tant mieux, le point d'inflexion, c'est-à-dire le moment, le niveau de revenu, à partir duquel, plus on gagne d'argent, moins proportionnellement, j'insiste, on paye d'impôts, c'est à partir de 627 000 euros par an. Vous voyez, c'est très, 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 très élevé, on parle de très peu de gens. Là, vous rentrez à partir de 627 000 euros de revenus par an dans un club très fermé qui est le club des 0,1% des Français les plus riches. On va les appeler les giga-riches. Et plus vous grimpez dans ce classement des giga-riches, et plus le taux d'imposition va baisser. Voilà. Alors, comment on est arrivé à ce chiffre, qui est un petit peu nouveau, de 26% d'imposition sur les revenus pour les giga-riches ? La différence majeure par rapport aux approches précédentes, aux études précédentes, pardon, c'est la définition d'un nouveau revenu économique dont disposent les ménages. Là, il faut être bien concentré parce qu'il y a une petite subtilité. Ça n'est pas le revenu fiscal de référence tel que celui que je viens de vous montrer dans le tableau, là, ce qu'on déclare dans la feuille des revenus, des impôts, ce qu'on est en train de faire ou qu'on a fait déjà. C'est un autre truc. C'est pas le revenu fiscal de référence, c'est le revenu économique dont disposent les ménages. Attention, il y a une petite subtilité. Ce revenu économique dont disposent les ménages additionne le revenu fiscal de référence, celui qu'on déclare sur la feuille d'impôt. On y ajoute quelque chose qui ne concerne que les riches, et encore plus les ultra-riches. On y ajoute les dividendes. On y ajoute les bénéfices des sociétés qui sont contrôlés pour tout ou partie par ces ultra-riches. Voilà, on fait ça à partir de 10%. Or, qu'est-ce qu'on sait ? Plus un ménage a des revenus élevés, plus il y a de chances que ces revenus viennent pas seulement du salaire, mais aussi des dividendes, voilà, ou parce qu'ils ont des actions dans telle ou telle boîte, ou tout simplement parce qu'ils dirigent l'entreprise. Ce qui donne cette phrase, plus un ménage a des revenus élevés, plus il y a de chances que ces revenus soient issus d'entreprises, de sociétés. Et plus un ménage est riche, plus il épargne. Ce qui se traduit souvent pour ces ménages à laisser l'argent dans l'entreprise dont ils sont actionnaires. Attention, nouvelle subtilité, et là, début de polémique. Les méga riches, ils n'ont pas forcément besoin de retirer tous les dividendes auxquels ils ont droit dans une entreprise. Un dirigeant de société peut décider de laisser une partie de ses dividendes qui sont redistribuables dans l'entreprise, voilà, pour l'investissement, par exemple. Le souci, c'est que cette étude, pour arriver à ce taux d'imposition qui baisse pour les méga-riches, en fait, a aussi inclus ces dividendes non perçus. Vous me suivez toujours ? Prenez un méga riche. Il a le droit à des dividendes dans son entreprise. Il ne les prend pas tous. Il en laisse une partie dans l'entreprise à des fins d'investissement, par exemple. Eh bien, ce calcul ici, ce calcul de l'Institut des politiques publiques, le compte quand même comme un revenu. Voilà. Et comme il n'a pas été imposé, puisqu'il n'est pas sorti de l'entreprise, eh bien, mécaniquement, en fait, ça vient baisser le taux. Du coup, l'étude a été critiquée par le ministère de l'économie. C'est pour ça que je voulais vous expliquer ça après qu'on en arrive à la polémique. Bruno Le Maire, le cabinet de Bruno Le Maire, s'est empressé de commenter cette étude en estimant que cette étude d'abord confirmait la progressivité de notre système de prélèvement obligatoire pour 99,9% des personnes, parce que je vous ai dit que là on parle de très peu de foyers, et de s'interroger sur la pertinence de ce revenu fiscal alternatif dont je viens de vous parler, imaginé par les chercheurs, jugeant dangereux sur le plan économique une définition assimilant les revenus des personnes et les revenus des entreprises. Hein, les bénéfices non distribués peuvent être réinvestis, souligne-t-on à Bercy. Sauf que, Libération dit, oui, mais parfois les dividendes, ils partent pas en investissement, ils sont parfois sortis de l'entreprise, mais mis ailleurs pour être touchés plus tard. Bon, là, on rentre un petit peu dans l'optimisation fiscale. Enfin, quelle peut être la réaction de l'exécutif par rapport à cette étude ? Est-ce que ça va relancer le débat sur l'imposition, non pas des Français, non pas des riches, non pas des très riches, mais bien des ultra riches, a priori non. Conclusion de l'article de Libé, fidèle à sa ligne, l'exécutif ne veut toujours pas entendre parler de hausse d'impôts. Depuis son élection à l'Élysée il y a 6 ans, Emmanuel Macron a méthodiquement allégé la taxation des plus riches, la baisse de l'impôt sur les sociétés à 25%, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les revenus du capital, la flat tax ont théoriquement renforcé le manque de progressivité. Voilà. C'est intéressant parce que cette étude, elle ne donne pas que des chiffres, elle répond à des questions. Elle dit par exemple, est-ce qu'il faudrait rétablir l'ISF ? Hein, aujourd'hui, c'est l'IFI qui frappe la fortune immobilière, mais rétablir l'ISF sur la fortune des très riches en France. Et en fait, cette étude dit, c'est pas la peine en fait, ça ne servira pas grand-chose, puisque de toute façon, les méga-riches se sont organisés pour... ils ne seraient pas beaucoup plus touchés, quoi. J'en parlais ce matin avec un spécialiste qui me disait, en fait, la solution pour augmenter... finalement le taux moyen d'imposition des méga riches, ce serait d'augmenter par exemple la taxation des dividendes ou l'impôt sur les sociétés. Voilà. Et après, des gens vont dire, pro-entreprise, ah oui, mais là vous allez freiner les entreprises, vous allez diminuer les investissements. Bon, ça c'est un débat, le débat éternel. Voilà. Je voulais vous donner les clés un petit peu de ça, parce que vous allez sûrement voir sur Internet des choses un peu raccourcies en mode... les méga riches échappent à l'impôt ou ils payent beaucoup moins d'impôts, ce qui n'est pas complètement faux, mais je pense qu'il fallait avoir un petit peu les clés de tout ça. J'arrête de parler, et je vous lis maintenant, parce que je cause quand même beaucoup. Là-dessus, j'essaie de répondre à vos questions s'il y en a. Et puis, je vais aller chercher un article sur Internet si jamais... mais je le mets de côté si jamais quelqu'un pose une question rapport à une autre actualité là-dessus récente. Bien sûr. Carlito 68 a complètement raison en disant la TVA est aussi un impôt, faut pas l'oublier. Et donc si on prend en compte la TVA, les foyers les plus pauvres sont largement les plus taxés en termes de pourcentage. Tout à fait. Quand on dit qu'il y a, je crois, un foyer sur deux en France qui n'est pas imposable, je parle de l'impôt sur le revenu. Donc il est faux de dire qu'un foyer sur deux en France ne paye pas d'impôt. Il ne paye pas d'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas la même chose. En revanche, il paye la TVA, notamment la TVA. La TVA sur son essence, la TVA sur son alimentation, la TVA sur plein de choses, voilà. Et là, on peut parler d'un impôt relativement injuste, parce qu'évidemment, si vous êtes méga riche ou si vous êtes très peu d'argent, vous payez le même taux de TVA sur tous les produits que vous achetez. Et donc, proportionnellement, eh bien, ça vous coûtera quelque part, ça aura un impact sur vos revenus, beaucoup plus important, bien sûr. Que quelqu'un qui a beaucoup de revenus. Voilà. Bonne remarque. C'est pas faux. La Cannes qui dit bof, l'ISF a jamais été très efficace, il n'y avait que les petits riches qui payaient quelque chose, c'est pas faux. En fait, les méga fortunes, les très grosses fortunes, celles qui, alors, économiquement, moralement, bref, dont on se dit qu'elles devraient payer cet ISF pour participer à la solidarité nationale. En fait, la plupart de ces grosses fortunes arrivaient à échapper grâce à des montages savants dont les comptables et les avocats ont le secret a échappé à l'ISF, alors que les petits riches, eux, qui n'ont pas ces moyens, eux, le payaient plein pot. Donc c'est vrai que c'était pas toujours très efficace, ce truc. Je vous lis. Ça vous inspire les impôts ou pas? Je crois que la TVA rapporte énormément à l'État. Thierry, si je dis pas de bêtises, la TVA rapporte plus que l'impôt sur le revenu, par exemple. Petit riche. Burger est un peu surpris par cette expression de petit riche. Ils sont riches quand même. Alors, grand débat en France, à partir de quand commence la richesse? Voilà, ça c'est un débat très compliqué. À partir de combien on est riche? Voilà. Ah ouais, bah tu vois, il y a Aeon qui propose une solution. Proposition, il faudrait mettre 50% de TVA sur les produits de luxe pour taper sur les bons portefeuilles. Voilà. Alors après, ouais. Alors après, à chaque fois, j'essaie de trouver l'argument chiant en face. Et là, vous avez des entreprises françaises qui sont, vous savez, la France est un des pays leaders de l'industrie du luxe. Voilà. Et là, si tu fais ça, tu as les entreprises françaises qui, bah, pour le coup... emploie beaucoup de personnes hein, qui vont dire mais là vous allez nous tuer en fait et vous allez nous rendre beaucoup, beaucoup moins concurrentiel par rapport à nos concurrents étrangers et vous allez nous bousiller en fait et au final c'est alors certes nos bénéfices, nos dividendes, notre richesse qui va trinquer mais aussi les emplois que nous représentons. Donc c'est une solution mais qui aura des conséquences. Alors Kim Jong-wan, très bon pseudo, et carré sur les mots, et tu as raison, littéralement, la TVA est une taxe hein, et pas un impôt. Oui, taxe sur la valeur ajoutée. Alors après, moi, il y a quelques temps, je disais quand dans un papier éco, j'entendais TVA impôt, je disais, ah non, techniquement, la TVA n'est pas un impôt. Tu as raison. Et maintenant, je ne le dis plus parce qu'en fait, certes, c'est une taxe, mais au final, pour les conséquences sur le budget des ménages, en fait, le résultat est bien celui d'une imposition. Donc ça me choque beaucoup moins qu'avant, en fait, qu'on mette sous impôt l'ensemble, finalement, des prélèvements obligatoires. Et pourquoi pas même les cotisations, retraite et santé, qui touchent les salariés, par exemple. Voilà. Donc je suis un peu moins... carré sur les mots pour le coup parce que je trouve que ça ne change pas grand chose au final. Oh alors vache, ok c'est bon, je peux prendre ma retraite et devenir comptable. J'ai un très gentil message de Chikaka qui dit bravo Sam, je suis comptable de 15 ans d'expérience et c'est très clair et sans ambiguïté. Écoute, je suis pas sûr d'avoir été aussi clair que tu le dis, sans ambiguïté, mais bon, merci pour l'encouragement, c'est super gentil. Bon, c'est sympa. Je parlais de l'emploi dans le secteur du luxe. La France est un champion du luxe. Là, on parle d'entreprise et d'industrie. Il y a Deutsche TV qui dit je n'ai pas de sympathie pour les milliardaires, dis-tu, mais taper sur LVMH, c'est pas forcément bon parce que le luxe français est net exportateur. C'est pas bon, effectivement, pour nos exportations, et puis c'est pas bon pour l'emploi aussi. Voilà. Puisqu'on parle d'impôts, je parle de sous et je remercie les subs. Merci Kiaou pour le Prime. Je crois que je t'ai déjà remercié. Je vis. Mais bon, il vaut mieux deux fois que pas assez. Y a-t-il une possibilité de changer les lois pour l'optimisation fiscale, Thierry? Les lois, on les change quand on veut. Les lois, on les change quand on veut. Les lois, c'est le législateur qui le fait. C'est le politique. C'est l'exécutif, c'est l'Assemblée, c'est le Sénat. Quoi. Si demain, vous, les Français, envoie une autre majorité à l'Assemblée et une autre couleur politique à l'Élysée, je dis n'importe quoi, de gauche ou d'extrême droite, vous aurez une autre politique économique que celle qui est menée aujourd'hui. Quoi. Enfin, ça ne tient qu'au vote des citoyens. Quoi. Donc, oui, demain, si vous... à 2027, si vous mettez Marine Le Pen au pouvoir, vous, enfin, je parle des électeurs, hein, eh bien, vous aurez une autre politique économique. Si vous mettez Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, et la majorité qui va avec à l'Assemblée idéalement, eh bien, vous aurez une autre politique économique. Voilà. À un moment, on n'est pas maître de tout, mais en fait, on est maître de ça. Un espouse qui dit que ça tient surtout au vote des plus de 60 ans, ben oui, si vous laissez les vieux voter à la place des jeunes, oui, c'est ce qui se passe, ouais. Bien sûr. Mais ne vous félicitez pas du fait que les plus âgés sont ceux qui votent le plus. Ça veut juste dire que les plus jeunes ne votent pas. Je ne dis pas que le paysage, le spectacle de la politique est fascinant. Je ne dis pas qu'il est enthousiasmant. Je ne dis même qu'il ne l'est pas beaucoup. Je ne dis pas que les propositions politiques et les incarnations politiques, quelles qu'elles soient, font rêver. Mais on s'en fout. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. On s'en bat les couilles, je le rappelle. Il ne s'agit pas de voter pour un sauveur, un Jésus de la politique qui va résoudre tous vos problèmes et ceux de votre voisin et ceux du pays en 15 jours de pouvoir. Ça n'existe pas. Voilà. Il ne s'agit même pas de voter pour un homme ou une femme politique qui a les mêmes idées que vous. Ça n'existe pas. La seule personne qui a les mêmes idées que vous, c'est vous. Voilà. Donc ça n'existe pas. Il s'agit de trouver celui, celle qui s'approche le plus de vos valeurs par défaut, qui semble porter ou les idées les plus proches de vos valeurs ou dont vous pensez, même s'il n'est pas tout à fait d'accord avec vous, que potentiellement il peut mieux gérer les affaires du pays ou moins mal que les autres. Voilà. Moi, je dis souvent, je sais que ça n'est pas très enthousiasmant, mais que voter pour moi, c'est choisir le... Ah, je sais, c'est pas très enthousiasmant. Le moins mauvais. Pas l'homme providentiel, quoi, ou la femme providentielle. Quoi. Je vote toujours, sans enthousiasme. Je suis souvent déçu, sinon à chaque fois, mais je déteste l'idée que ce soit les autres qui décident à ma place. Par contre, voilà. Voilà. Donc, encore une fois, le pouvoir, il est quand même dans vos mains si vous êtes en âge de voter. Après ce petit édito appelant à participer à l'exercice démocratique, penchons-nous sur la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Alors hier, on en parlait et on se disait, bon, quel avenir pour cette mobilisation? Et je vous disais, ben, la réponse, elle est dans, non pas dans les urnes, mais dans la rue. On va compter demain matin le nombre de personnes dans la rue, et là on va dire si ce mouvement populaire de colère contre la réforme des retraites, son contenu et la manière dont elle a été mise en place, eh bien on va savoir si elle peut se poursuivre. Bon, la mobilisation a été faible, hein, c'est l'une des plus faibles, voire la plus faible des 14 journées de mobilisation. Donc la plupart de vos journaux ce matin en région ou nationaux, y compris l'Humanité, qui n'a pas beaucoup de sympathie pour ce gouvernement ni pour cette réforme, s'accordent à dire que c'est fini. Hein, en gros que, bon ben, quelque part le président Macron qui pariait sur un essoufflement ou un pourrissement du mouvement, quelque part, a gagné son pari. Même les syndicats, hein, le reconnaissent. Hein. Même l'Humanité le reconnaît. Regardez. C'est pour ça que je vous ai mis l'Huma ce matin. Les opposants à la réforme des retraites sont donc descendus une 14e fois dans la rue. Aux revendications sociales s'ajoute la critique d'un régime engagé sur une pente autoritaire. Ce qui est intéressant, c'est que l'Humanité reconnaît à demi-mot qu'effectivement, bon, là, c'est un petit peu finito. Mais l'Humanité dit... Il en restera quelque chose. Il va en rester quelque chose quand même. D'abord parce que les mots d'ordre dans les manifs ne portent plus que sur la réforme des retraites, mais aussi sur une critique du pouvoir, de la manière dont ce pouvoir, en fait, pratique les institutions de manière assez autoritaire, voilà, en niant certaines légitimités, comme celle du Parlement, par exemple. Et c'est ce papier que je veux vous lire ce matin. comment dire, pour les partisans en tout cas, pour les opposants à la réforme, constitue une forme un petit peu d'espoir. L'exigence démocratique, l'autre carburant du mouvement, le coup de force permanent du gouvernement a changé la nature de la mobilisation contre la réforme, alors que les Français sont descendus hier une 14e fois dans la rue, aux revendications sociales sur le travail, s'ajoute la critique d'un régime engagé, selon Luma, sur une pente autoritaire. Objectif de l'intersyndicale, réaffirmer, c'était l'objectif de la journée d'hier, un rapport de force à deux jours de la niche parlementaire du 8 juin. Ça, c'est demain. Le 8, c'est demain. C'est très important. Donc, la niche parlementaire de demain, ça, j'ai pas besoin de Luma pour vous le raconter. Vous le savez, demain, il se passe un... On va dire c'est le dernier épisode. On peut dire ça comme ça. De la crise de la réforme des retraites. Demain, devait être, parce qu'a priori, elle va pas être étudiée, une proposition de loi d'un groupe parlementaire qui s'appelle le groupe Liotte, qui est à l'Assemblée, proposition qui visait tout simplement à annuler la réforme des retraites en revenant à l'âge de départ légal à 62 ans. Donc ça aurait été énorme, bien sûr, si cette proposition de loi avait été votée. Il n'y avait aucune chance qu'elle soit, qu'elle devienne, qu'elle ait force de loi au final, puisqu'après il fallait que ça passe par le Sénat. Le Sénat, qui est dominé par la droite, n'aurait jamais voté ce texte. Et puis après, le gouvernement se serait arrangé pour que finalement ce texte ne revienne pas à l'Assemblée. Bref, je vous la fais courte. Même voté à l'Assemblée, cette annulation de la réforme des retraites n'aurait pas eu lieu. Mais, politiquement, ça aurait été un coup très dur pour le gouvernement de voir l'Assemblée voter contre sa réforme des retraites. Et comme le gouvernement, l'exécutif, n'avait pas du tout envie de ça, ils sont arrangés, voilà, pour que la présidente de l'Assemblée, Madame Braun-Pivet, soit en mesure, au nom de l'article 40 de la Constitution, de dire cet amendement, voilà, revenant à 62 ans, eh bien, il ne peut pas être étudié, examiné, voté à l'Assemblée, tout simplement parce qu'en fait, il augmente les charges de l'État, puisqu'il se prive des recettes supplémentaires, notamment en termes de cotisation provoquées par la réforme. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain ? Techniquement, l'Assemblée devait voter sur cette proposition de loi Liotte, et a priori, mais on reste prudent, c'est la politique, tout peut se passer quand même. A priori, cette proposition de loi va peut-être présentée à l'Assemblée, mais vidée de son contenu, puisque l'article 1 qui est justement le retour à 62 ans, eh bien, ne sera pas réintroduit par amendement. Donc il y a eu toute une petite séquence de constitutionnelle pour en arriver là. Mais le résultat, c'est qu'a priori, demain, pour ne prendre aucun risque et pour que cette proposition de loi ne soit pas votée, en fait, elle ne puisse pas être votée. Alors qu'est-ce qui va se passer là-dessus ? Si ça se passe comme ça, mais vous avez l'opposition qui va crier, qui va dénoncer, qui va dire que c'est un déni de démocratie. Voilà. Après, c'est... comment dire, ça, c'est à vous de vous faire votre opinion par rapport à ça. Voilà, bah, tu vois là, Marvel me dit, l'agence France Presse annonce que Yael Braun-Pivet annonce qu'elle va faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation de la retraite de 64 ans. C'est ce que je vous disais, bon, c'est en train de se passer. Voilà. Bon. Donc on est vraiment sur la fin de ça. Mais l'humanité reste optimiste en disant c'est fini pour la bataille contre la réforme des retraites, mais il y a autre chose qui arrive. Cette énième manœuvre antidémocratique, c'est ce qui va se passer demain à l'Assemblée, n'a pas échappé aux manifestants. Partout en France, on s'indigne d'un nouveau coup de force. Déjà, il y a eu le retour au 49-3 pour adopter le texte sans vote. Du coup, les mots d'ordre dans les cortèges ont commencé à changer de nature. Aux revendications sur le travail se sont ajoutés des slogans fustigeant la marche autoritaire du régime et des dérives de la 5e incarnée par Emmanuel Macron. À Nice, par exemple, une pancarte pointe, par exemple, le bras d'honneur à l'Assemblée du chef de l'État quand à Paris, un manifestant brandit « Ne m'appelez plus démocratie, appelez-moi Macronie ». Depuis janvier, la Macronie a donné à voir à quel point la 5e estime l'humanité peut devenir une implacable machine à imposer, à tordre le bras au Parlement, au contre-pouvoir, à faire violence aux minorités comme aux majorités de blocage. La réforme des retraites a conduit le gouvernement esselé à déployer des trésors d'inventivité procédurale pour la faire adopter envers et contre tous. Donc voilà, vous avez aimé le 49-3, vous êtes régalé avec le 47-1 et maintenant avec l'article 40. Voilà. Le gouvernement, l'exécutif, n'ayant pas de majorité à l'Assemblée, a dû user des subtilités de la Constitution pour faire passer cette réforme. Je pense que vous connaissez l'histoire. L'Humanité rappelle l'histoire. Et je vais à la fin de l'article. Que je vous résume, c'est une des autres idées évoquées par l'Humanité ce matin. Il y a un truc pour l'UMA de positif dans toute cette histoire, notamment, c'est l'unité syndicale. Vous saviez qu'avant la réforme des retraites, les syndicats étaient plutôt divisés. Hein, deux partis comme la CGT et la CFDT ne s'entendent pas beaucoup, pas très bien historiquement. Et le président Macron, il a réussi quelque chose malgré lui, c'est qu'il a réussi à créer une unité très forte des syndicats qui a tenu jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ce qui est incroyable. C'est-à-dire la CGT, la CFDT, notamment la main dans la main, d'accord sur la stratégie de lutte contre cette réforme des retraites, historiquement en France, ça n'est pas arrivé souvent. Et donc l'Humanité se réjouit parce que se dit qu'il y a d'autres réformes qui arrivent, notamment la réforme du travail, la réforme du RSA, d'autres choses comme ça. Et l'Humanité espère que cette unité syndicale retrouvée va permettre de peser sur d'autres réformes à venir. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on pense l'Humanité. Ce matin, je voulais vous en parler. Est-ce que j'ai un petit peu de temps encore? 11h? Oh, faut que je vous lasse dans combien de temps? À quelle heure j'ai mis le réveil, là? Si c'est 11h20, faut que j'accélère. Hein. Excusez. Lisez pas mon téléphone. Hein, parce que c'est mon amoureuse qui m'envoie des messages. 11h30? Il y a mon épouse qui me dit que elle a mis un t-shirt blanc pour Malo à lui mettre pour l'événement. Aller chez le dentiste, c'est un événement? Je comprends rien. J'ai dû rater un truc. Quand vous allez chez le dentiste, vous faites beau, vous, ou pas? Comment ça se passe? Je comprends rien. L'événement, j'ai dû rater un truc. Ok. Ah non, l'événement, c'est autre chose. Attends, oui, c'est autre chose. Je viens de comprendre. Ça y est, je suis pas rapide. Hein. Ça y est, j'ai compris. Non. Mais Malo, il doit être élégant pour un autre truc, mais c'est pas le dentiste. Ça y est, je l'ai. Ok, je l'ai. Et ok pour le déj. Ok. Excusez-moi, je règle mes petites histoires. Ok, parce que bon, le stream c'est bien, mais bon, la famille, désolé, c'est plus important. Ok, donc ça c'est bon, et... Oh putain, c'est pas possible. Ah, c'est pas mal. Je regarde les audiences de la matinale de France Info, je dis c'est pas mal. 11h30, il nous reste 30 minutes. Est-ce que j'ai le temps de faire ce que je veux vous faire? Ouais, si, j'ai le temps. Bon, pas de pause. Une petite pause, un petit café rapide, très rapide. Je me fais un expresso. Un expresso, c'est-à-dire je vous mets juste de la musique pour tout le monde là. Je vous mets une minute de musique. Et puis après, on parle d'Edouard Philippe, on parle d'Abaya, on parle de Vision Pro, d'Apple, on parle un petit peu de Roland Garros, d'accord? Donc on se fait un mini café, voilà, genre une minute. Allez vous hydrater. Je reviens tout de suite. Oh! Et on va remercier le raid de Frandroid Live aussi dans un instant. Je reviens dans une minute. A tout de suite. J'arrive.
sorcellerie.
Ouais, je sais, la musique est super, mais je vous avais dit pause super rapide. Quand je dis pause super rapide, c'est pause super rapide. Comment fait-il ? Sorcellerie, c'est pas possible. Ouais, j'ai ouvert une canne de coca. Donc voilà, là on est au coca, la caféine est là. Ça va me relancer. Voilà, on a fait au plus vite. Frandroid Live, merci beaucoup pour le raid. Vous êtes super, allez voir cette chaîne. Vous allez vous régaler. Et The Voyageur, merci pour les beats. Donc maintenant, on parle d'Abaya. Bon, c'est pas la première fois, je crois, que le Parisien en parle. Je ne sais pas trop quoi en penser de ce truc. Je suis comme vous, hein, je m'interroge sur l'actu, je n'ai pas que des certitudes, je n'ai pas un avis sur tout. Je vois qu'il y a questionnement, je vois que c'est la Nuit du Parisien, je vois que le ministre de l'Éducation a réuni les recteurs d'académie là-dessus hier, donc il se passe quelque chose. Le défi de l'abaya, l'école face au défi de l'abaya. L'abaya, c'est cette tenue que vous voyez ici, sur cette une du Parisien, qui n'est pas une tenue religieuse, hein. Mais dont le port, dit-on, est encouragé par l'islam rigoriste, voilà, par certains musulmans, mais pas par tous. Et les incidents à l'école de la République en France, liés à cette tenue, se multiplient. On va voir ce que ça veut dire. Du coup, le ministre de l'Éducation a réuni hier les recteurs d'académie. Lisons le papier, puis vous me direz ce que vous en pensez, ça m'intéresse. La robe qui défie l'école républicaine, titre Le Parisien. Le ministre de l'Éducation a donc réuni ses recteurs hier pour évoquer la hausse des incidents liés aux abayas. Ces tenues amples, pas interdites par la loi, mais prohibées dans les établissements car considérées comme signe d'appartenance religieuse, jouent sur une ambiguïté source de conflit. L'habit fait-il le moine ? Ah ah ah, excellent, excellent. Et l'abaya, l'élève musulmane ostensible. Vous avez 4 heures. C'est vrai que c'est un vrai sujet de philo. Depuis plusieurs mois, les incidents vestimentaires se multiplient dans les établissements français. C'est pas la première fois qu'on en entend parler. En cause, qu'est-ce que c'est ? Une robe traditionnelle qui est venue du Moyen-Orient, qui fait de plus en plus d'adeptes, effectivement, chez les jeunes musulmanes de France. Des robes amples qui sont faites pour cacher les formes, qui s'achètent partout maintenant, hein, alors que longtemps, c'était dans les boutiques communautaires. Et qui mettent régulièrement l'institut scolaire au défi, comme ces derniers jours, dans plusieurs établissements, il y a eu plusieurs incidents. Constatant une recrudescence en début de printemps, Pape Ndiaye, c'est le ministre de l'Éducation, soupçonné par les partisans d'une ligne ferme de défendre une laïcité accommodante, plutôt cool, plutôt ouverte, eh bien le ministre entend aujourd'hui afficher sa fermeté face aux pressions communautaires, dit-il, dans certains quartiers. Le ministre de l'Éducation qui a donc réuni hier tous les recteurs d'académie. Alors les chefs d'établissement, en fait ce sont eux, hein, qui sont confrontés à ce casse-tête au quotidien. Merci Nadu05 pour le 22e mois d'abonnement. C'est beaucoup. Donc ce sont les chefs d'établissement qui sont confrontés à ça, hein, au cas par cas. C'est à eux de qualifier ce vêtement qui n'a pas de caractère religieux à l'origine. C'est ça qui est intéressant. Contrairement au voile par exemple, mais qui est encouragé par la salafiste. C'est là où il devient problématique. Merci les modos pour avoir mis la chaîne de Frandroid live dans le chat. C'est donc l'intention de l'élève qui compte. Voilà. Est-ce que ce vêtement est mis parce que la personne qui le porte le trouve joli ? Est-ce que la personne le porte pour cacher ses formes, par exemple, de femme, de jeune femme, de jeune fille ? Est-ce que la personne le porte en voulant laisser faire passer un message religieux ? Comment voulez-vous que les proviseurs le sachent, quoi ? Et c'est ça qui est compliqué. Hein, c'est au proviseur de qualifier ce vêtement qui n'a pas de caractère religieux à l'origine. C'est l'intention de l'élève qui compte. Et là, bonjour, hein, dit le Parisien, comment vous faites ça, quoi ? Certaines jeunes musulmanes peuvent avoir des visées prosélytes, mais d'autres vont vouloir couvrir des rondeurs, d'autres vont vouloir imiter la copine, d'autres vont trouver la tunique jolie, pas chère, que sais-je encore, écrit le Parisien. On retrouve toujours les mêmes éléments de langage qui vise à normaliser les vêtements à caractère religieux. Là, c'est quelqu'un qui est très anti qui dit ça. Et ce quelqu'un, c'est le comité interministériel de prévention de la délinquance, de la radicalisation, qui invite à ne pas prendre cette histoire à la légère. Hein, certains dans le chat disent oh, « c'est pas si important que ça ». Ce n'est pas l'avis du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, estimant que derrière les discours qui peuvent relever de la provoque, il y a une stratégie islamiste structurée pour préparer les générations futures. Voilà le débat. Là, on a... Moi, j'ai du mal à me faire un avis sur le sujet, je l'avoue. Et on a les éléments du débat. Voilà. Certains qui disent « Oh, on s'en fout, c'est juste un vêtement. » D'autres qui disent « Oui, il n'est pas forcément porté à des fins de prosélytisme. » Voilà, ou pour faire passer un message religieux, et puis d'autres qui disent attention, c'est plus compliqué que ça. Voilà. Non, je vais pas faire un sondage là-dessus. C'est vrai, Léonel a bossé sur le sujet, je le vois, et il nous rappelle que sur l'intention de prosélytisme, par exemple, il y a un faisceau d'indices qui a été dégagé par des juridictions. La fréquence du port du signe, par exemple, hein, si c'est une fois de temps en temps ou si c'est souvent, refus de l'enlever, par exemple. Voilà. Je vous lis un petit peu. Ok, message très intéressant de Florian qui nous rejoint. Vous pouvez juger dans le chat. Voilà. Voilà. Donc, évidemment que tu te prends un petit ban provisoire. Voilà. Si tu viens réfléchir sur l'actualité de façon chill, sois le bienvenu. Mais si tu viens juste troller, évidemment, sans que je l'aie à le faire, tu seras vite mis dehors. Même pas par les modérateurs, mais par les gens qui sont dans le chat ici. Plus sérieusement. Comme le dit MJ7F, le problème, c'est que certains pratiquants de l'islam l'utilisent comme engagement politique. C'est ça qui crée le souci. N'est-ce pas ? Pour moi, c'est juste un vêtement, mais comme tout, il faut faire attention à comment il est utilisé. Voilà. Paul Clafoutier, les musulmans de France en ont assez de se faire fliquer et dénoncer au moindre faux pas. Ella, je te lis, mais ça n'est pas tout à fait ça. Ella, tu dis, du coup, les gamines blanches, là, il n'est pas question de couleur, par ailleurs, dans notre histoire, hein, mais bon, qui portent des vêtements larges pour cacher leur corps par mal-être, on les embête aussi ou l'été prochain, on épinglera les t-shirts amples pour toutes ? C'est autre chose. C'est un vêtement particulier qui vient du Moyen-Orient et dont on a compris qu'il était utilisé par certains, certaines, pour faire passer des messages religieux. C'est cette utilisation-là qui pose problème. Les gamines dont tu parles qui ont des t-shirts larges, personne ne se sert de ces t-shirts pour faire passer des messages religieux. Tu seras bien d'accord avec nous. Par exemple, Eon44 estime que c'est du prosélytisme, même si la personne qui le porte le fait pour d'autres raisons. Beaucoup d'avis très intéressants dans le chat. Tossam, oui, mais les gamines ne peuvent pas porter la responsabilité des discours de radicaux. Dave Mars, juste en dessous, n'est pas d'accord. C'est un signe ostentatoire, c'est simple. Je comprends pas en fait le débat. Voilà, et à l'inverse, voilà, quasiment à chaque ligne, vous vous opposez, mais de façon très correcte entre vous. MMXFIA, c'est un vêtement, merde, vous n'allez pas en faire des cauchemars. Si une religion s'approprie le port du djinn, est-ce qu'on va interdire les djinns ? Demande Yonéa. C'est pas tout à fait la même chose. Infernal débat, dit Raoul Razorback. Exactement. Moi, j'ai bien du mal à me faire une opinion sur ce sujet, je l'avoue. Ratax 7 dit « Des religions hors des écoles publiques, c'est une règle saine. » Et je suis assez d'accord avec ça. Et vous êtes plusieurs à parler de l'uniforme. Bon, donc une nouvelle pièce dans la machine sur cette polémique avec cet article du Parisien. Et maintenant, ça par contre c'est nouveau. Alors, les gens ont le droit de changer et d'évoluer bien sûr. Hein. Mais ça c'est nouveau. Il a changé Édouard Philippe. Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, ancien juppéiste, normand, voilà. Un politique prudent qui connaît le poids des mots et l'importance des mots, et qui, là, sur la question de l'immigration, eh bien, a changé. Voilà. Philippe à l'école de Sarkozy, pour interrogation, c'est la une, c'est l'article page 4, donc parisien. Avec ses positions sur l'immigration, l'ancien Premier ministre adopte la stratégie qui avait réussi à droite en 2007. Vous avez un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui, sur l'immigration, a changé d'idée, d'opinion, en tout cas a changé les mots. En prenant dans un entretien à l'Express, la remise en cause d'un accord de 68 sur l'entrée des séjours des Algériens en France, en prenant position contre l'immigration du fait accompli, Édouard Philippe ne fait pas que poser des jalons dans sa perspective de candidature à la présidentielle de 2027, il donne aussi un bon coup de barre à droite pour ceux qui n'auraient pas compris. La méthode en rappelle une autre, celle de Nicolas Sarkozy, estime le Parisien, pendant l'épopée présidentielle de 2007, à l'époque le ministre de l'Intérieur, candidat à la succession de Jacques Chirac, n'hésitait pas à parler directement aux électeurs de Jean-Marie Le Pen à l'époque, en marchant clairement sur ses plates-bandes, sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration. Résultat, 7 ans après s'être qualifié pour le second tour, le leader frontiste se retrouve complètement siphonné de ses voix. L'opération Sarkozy avait plutôt réussi, mais en reprenant un peu les mots et les idées de l'extrême droite, pour partie. Pour le Parisien, en fait, Édouard Philippe est en train de faire la même chose. La parole à un proche d'Edouard Philippe, l'eurodéputé Gilles Boyer, qui dit écoute, ça fait des décennies qu'on dit qu'il ne faut pas parler d'immigration dans notre pays, parce que c'est le FN, parce que c'est le RN, mais c'est absurde. Faut-il attendre que Marine Le Pen soit encore plus haute dans 4 ans, ou doit-on tenter de répondre aujourd'hui à un sujet, certes clivant, mais qui préoccupe les Français? Voilà. Là, vous avez l'éternel débat, qui n'est pas qu'à droite d'ailleurs, de. Comment faut-il lutter contre Marine Le Pen, puisque c'est son incarnation aujourd'hui, le Rassemblement National, puisque c'est son parti, ou l'extrême droite d'une façon générale, puisque c'est cette famille politique? Comment lutter? Est-ce que c'est en s'opposant frontalement sur les idées, ou, comme d'autres le pensent, notamment une partie de la droite, en reprenant une partie de ses idées? Voilà, et le débat, après, il est infini. Hein, c'est en mode, ah oui, mais... Les électeurs préfèrent toujours l'original à la copie, et ce n'est pas en copiant les idées et les propositions de l'extrême droite que vous allez les battre. Au contraire, vous allez les rendre encore plus forts. Vous connaissez le débat. Je vous lis là-dessus. Par exemple, Pomme estime que la France est de plus en plus à droite et que ne pas parler d'immigration est s'assurer une défaite aux élections. Oula, ce que tu dis, Ashbay, est faux. Je suis frontalement et pas d'accord avec toi. Tu l'exprimes de façon, comment dire, l'idée, je la trouve fausse, archi fausse. Mais je ne vois pas au nom de quoi je t'interdirais de tenir ces propos, puisque c'est voilà. Mais bon, pour moi, c'est de l'islamophobie. Mais bon. Je ne lis pas la phrase, je la trouve très violente, mais bon. Captain Mamberny dit c'est limite Samuel quand même. Moi, je sais, je suis un peu. Ouais. Ouais, moi aussi, je suis un peu embêté avec le message. Mais après, le problème, c'est que. Comment dire? Vous avez quand même une partie des Français qui le pensent, puisqu'ils votent pour les représentants de ce parti. Donc, est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut se mettre dans sa tour d'ivoire et ne pas discuter avec eux, ne pas échanger avec eux, ne pas essayer de comprendre, d'échanger les arguments, de faire changer d'avis idéalement? Est-ce qu'il faut, vous voyez, est-ce qu'il faut accepter le débat ou pas? Moi, je suis plutôt partisan d'accepter le débat, y compris avec les gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, y compris sur ces questions. Mais c'est vrai que le message était un peu chaud. Allez, je continue à vous lire. C'est Bandicoot estime que Edouard Philippe est un seigneur site et qu'il n'y a qu'à lui mettre une capuche pour le voir. Bon, comme tu y vas quand même. Adramelech, reprendre leur discours, c'est aussi le normaliser. Donc là, tu parles du discours de l'extrême droite et leur permettre indirectement d'aller plus loin encore dans la haine. De plus en plus à droite ou les Français ? De plus en plus orientés vers les extrêmes du spectre politique, se demande Alan. Alors, Mortumi en parle et c'est très bien. Merci beaucoup, Zeror42 pour le Prime. Mortumi dit au Danemark, la gauche s'est emparée du sujet de l'immigration, on en a beaucoup parlé récemment. Bilan, l'extrême droite a fait 2% aux dernières élections. Voilà. Et ce que tu dis est factuellement vrai. Le problème, c'est que la gauche, quand tu dis que la gauche s'est emparée du sujet de l'immigration, elle n'a pas fait que s'emparer du sujet de l'immigration pour en parler. Les détracteurs de cette politique disent qu'en fait, la gauche au Danemark en fait, a mis en place une politique d'immigration qui pourrait tout à fait être une politique mise en place par le Rassemblement national. Quoi. Donc avec, effectivement, à partir du moment où tu mets cette politique en place, tu affaiblis politiquement l'extrême droite qui n'existe plus aux élections. Mais au final, qui a gagné ? Est-ce que c'est la gauche ? Ça, c'est le débat. Hein. C'est pas mon avis. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi, j'avoue que c'est très compliqué d'avoir la réponse à ces questions. Et qui gagne dans cette histoire ? Est-ce que c'est la gauche qui arrive au pouvoir et qui éloigne l'extrême droite du dit pouvoir ? Ou est-ce que c'est l'extrême droite qui a vu ses idées triompher ? C'est ça le débat. Il y a Ashbeck avec qui je ne suis pas d'accord et qui revient. Et, en tout cas, moi, j'apprécie la démarche de volonté d'échanger et de discuter. Bon, Ashbeck, je n'ai plus le message en tête. Je disais en substance que faisait un lien entre appartenance à une religion et quelque part comportement anti-France. Quoi. J'espère que je ne déforme pas tes mots. Tu fais un lien entre religion et comportement citoyen. En fait, c'est faux. C'est faux. C'est ton sentiment. Aucune statistique ne peut venir appuyer ce que tu dis. Et faisant un lien entre une communauté et des agissements potentiellement délictueux, par exemple, tu marques du sceau de l'infamie une communauté qui ne se comporte absolument pas de cette manière, quoi. Donc il n'y a pas de fondement de réalité statistique à ton affirmation. Et en revanche, tu as un discours qui est un discours discriminant en fait par rapport à une communauté, ici une communauté religieuse, de croyance, de foi, et en fait c'est un comportement discriminant, quoi. Pour le coup, islamophobe, pour dire les mots, quoi. Qui m'écrit ? Excusez-moi, c'est pour le dentiste. C'est ok, tout va bien, c'est géré. Voilà. Bon, voilà pour Edouard Philippe. En tout cas, il a changé. Il a changé son discours sur l'immigration. A changé. Non, dentiste, c'est pas pour moi, c'est pour Malo. Petite visite de contrôle. On en est aux échos. On a commencé à en parler hier. Il nous reste 6 minutes, dépêche-toi, Samuel. On a parlé hier, mais bon, quand même, c'est un peu intriguant ce truc là, ce casque d'Apple là. Donc on en reparle un petit coup. Le nouveau pari d'Apple, il est là, le masque, il est beau, il est futuriste, il coûte une blinde, il coûte combien ? 3 500 $. 4 000 euros, a priori, quand il va arriver en France. Le géant américain part à l'assaut de la réalité virtuelle avec son casque Vision Pro. Qui va acheter ce truc-là ? L'écosystème du métavers mise sur son nouveau produit pour se relancer. La demande viendra essentiellement des entreprises. Alors d'abord, il y a un tout petit bout de l'édito, parce qu'en fait, les échos consacrent leur édito à ce produit. Pardon, excusez-moi, je lisais un commentaire sur un sujet précédent. Personne ne sait quand la réalité virtuelle deviendra une industrie de masse. Pour l'instant, ils sont un petit peu à la bourre, quoi. Ça ne fonctionne pas beaucoup. Mais celui qui en contrôlera l'accès, quand ça va exploser, la réalité virtuelle, sera incontournable. Voilà pourquoi donc Apple se doit d'être offensif, même si la demande et les usages ne vont croître que progressivement. Parce que moi qui me suis pas mal penché sur les questions de réalité virtuelle et ou augmentée ces derniers mois, bon, on a tous fait le constat que pour l'instant, bon, il n'y avait pas grand-chose. Au grand dam d'un groupe comme Meta, hein, l'ancien Facebook, qui s'est même rebaptisé en Meta et qui a vu les énormes investissements réalisés en la matière en fait servir à pas grand-chose. Mais, ce que nous disent les échos, donc là oui, avec Apple, on est plutôt sur la réalité mixte, mais bon, les échos le savent, mais ils disent juste que ce casque de réalité mixte est quand même, quelque part pour Apple, une façon de prendre date, de prendre pied avec un produit innovant qu'ils vont sans doute améliorer, peut-être, dont ils vont faire baisser le prix dans les prochaines années, pour le jour où l'univers de la réalité virtuelle va exploser. Voilà. Donc l'outil d'Apple est un peu différent par rapport au casque Oculus, par exemple, ce genre de choses, effectivement. Mais malgré tout, selon les échos, pour Apple, c'est une façon de prendre position sur ce marché qui est bien le marché de la réalité virtuelle. Ici, il y a un article des échos qui va au-delà de l'édito, qui est plutôt intéressant. Il reste 3 minutes, je suis complètement à la bourre. Avec le Vision Pro, Apple part à l'assaut de la réalité virtuelle augmentée. Beaucoup espèrent que ce nouveau produit aura le même effet que l'iPhone avait eu sur le marché du smartphone. C'est hyper intéressant. Certains, d'ailleurs, j'ai vu des commentaires intéressants sur Twitter de gens qui disaient mais quand le premier iPhone est sorti de première génération, le produit n'était pas top en fait. Et Apple est devenu vraiment très 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 fort, très très compétitif à partir de, disait la personne, je ne sais pas si c'est juste, de la troisième génération d'iPhone qui a commencé à tout casser, quoi. Donc là, on a un produit qui est assez innovant, hein, je crois, hein, d'après tous les articles que j'ai lus, mais qui, dans ses applications du quotidien, n'est pas encore délirant, quoi. Et puis qui, par son prix, est juste inaccessible à la plupart d'entre nous, quoi. On parle de 4000 euros, 3500 dollars. Mais beaucoup espèrent que ce nouveau produit puisse avoir le même effet que l'iPhone avait eu sur le marché du smartphone, ici, sur le marché de la réalité virtuelle. Regardez la dernière chance des casques immersifs. Voilà. Là, vous avez un spécialiste du secteur qui dit si Apple se plante là, avec son produit, eh bien, on est parti pour 10 ans de glaciation du marché. On parle du marché de la VR ou de l'AR. Voilà. Alors, oh, il y a un passage que je trouve très intéressant. Alors, c'est super cher, bien sûr, mais les échos écrivent. N'empêche que sur un marché des casques virtuels qui peinent à décoller, beaucoup espèrent que l'effet Apple va jouer de la même façon que lorsque l'iPhone avait révolutionné l'usage du smartphone. Vision Pro est le premier ordinateur chez Apple, ils disent « ordinateur ». Intégrant le monde réel et le monde numérique de façon fluide. Un outil qui vous permet d'interagir avec du contenu virtuel comme s'il était dans votre espace physique. Apple préférait d'ailleurs, plutôt que de casque de VR, préfère parler, même pas de casque de réalité augmentée, Apple préfère parler d'un ordinateur spatial. Une façon aussi de justifier son prix élevé. Ouais. Bon, les échos rappellent aujourd'hui que le marché de la VR, c'est un peu un flop. Mais, et là je vais au deuxième article sur la page combien ? 25. Et après je vous lis parce que je vous réponds plein de messages, puis après on fait un raid. Dépêche-toi, Samuel, t'es à la bourre, le téléphone va sonner. Le métavers n'a pas dit son dernier mot. Depuis plusieurs mois, la fièvre autour des univers virtuels où on peut mener une seconde vie est retombée, mais certains métavers portent encore beau. La réflexion des échos, c'est qu'effectivement, les investissements dans cet univers. Pour l'instant n'ont pas porté ses fruits, mais que les acteurs du secteur comptent bien un jour voir décoller ce secteur téléphone, et que les investissements d'aujourd'hui, notamment d'Apple, anticipent sur cette éventuelle décollage un jour, quoi. Voilà. Pro les débats. Ça continue, ça continue, ça continue. Bah, 2 heures d'autonomie. C'est pas grave, tu restes sur secteur, tu prends une grande rallonge, c'est tout. Les amis, je vous abandonne, je suis désolé, parce que je vais chez le dentiste, j'emmène mon petit garçon. J'aime bien faire des trucs avec lui. Je vous signale juste que il y a une demi-finale homme à Roland-Garros de rêve qui arrive, est à la une de l'équipe, avec, hop, le jeune monstre Carlos Alcaraz, 19 ans, voilà, dont vous m'avez rappelé qu'il avait déjà gagné un tournoi du Grand Chelem, l'US Open, et qui aimerait bien en gagner un deuxième Roland-Garros, mais qui sera opposé en demi, c'est un peu une finale avant l'autre, à Djokovic, qui rêve lui de remporter un 23e tournoi du Grand Chelem, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du tennis masculin, et Alcaraz qui a été injouable contre Tsitsipas, qui s'est débarrassé de Tsitsipas, qui est quand même un excellent joueur, en 3-7. Cette dernière semaine de Roland-Garros, avec la finale dame samedi et la finale homme dimanche, s'annonce assez passionnante. Hop, je vous abandonne, je vous laisse, on fait un petit raid, j'ai vu des défécateurs, je vais aller voir ça. On fait un petit raid, faites-moi des propositions maintenant dans le chat de streamers, de streameuses qui sont en live, et dans 2 minutes on raid tous ensemble. Je vous remets la chanson de tout à l'heure, vous sembliez bien l'aimer. 2 minutes de musique, 2 minutes de pub pour ceux qui ne sont pas abonnés, et dans 2 minutes on raid tous ensemble et l'aventure se poursuit. À tout de suite pour le raid. On va où? Entrez! Entre Malo, c'est Malo qui vient me voir. Entre Malo! Ok, désolé, ça a été long parce que j'ai dû gérer les enfants qui débarquaient en force, les deux. Wait for me! J'arrive! Désolé, c'est compliqué de gérer les deux enfants qui ne sont pas gérés, que je dois pas mettre dans le champ de la caméra, plus le raid, ça a été très compliqué. Désolé, donc je crois que j'ai trouvé. Voilà. Mais. Oh là là là, c'est un peu la fête là. Et maintenant, vous savez pourquoi, à un moment, j'ai pris. Pourquoi j'ai pris un studio de stream. Voilà, parce que parfois c'est quand même un peu compliqué. C'est sympa d'avoir les enfants pas très loin, mais c'est quand même, quand vous voulez pas les montrer à l'antenne, c'est quand même un peu compliqué parfois. Voilà, donc j'y suis à peu près arrivé. Ok, c'est vraiment en super zen. Ok. les amis, on va voir Lindrox, proposition notamment de Defecator officiel. C'est une streameuse que j'ai déjà raid. Voilà, c'est un très bel univers, voilà, que je connais. Je vous remercie pour ce matin, pardon pour cette fin un peu précipitée de stream. Je vous souhaite de passer une belle journée, de profiter du beau temps parce qu'il fait beau, d'être heureux, de rendre les autres heureux autour de vous. Puis moi, je vais aller m'occuper de la petite famille puisque manifestement, ça n'est pas tout à fait géré. c'est parti pour le raid. À demain matin. Ciao, ciao.